Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
C'était mieux avant, on me le dit souvent. Mes souvenirs sont doux, je les chéris tant. Mais l'avenir aussi est bien trop tentant. Faut que tout me réussisse.
Bonsoir, bonjour, waouh, c'est la rentrée.
C'est enfin la rentrée.
C'est la rentrée, c'est incroyable. Écoutez, nous allons nous retrouver pour une saison 2 de C'était mieux avant sur Mon Paris FM. Écoutez, c'est incroyable.
C'est magique.
C'est un moment magique. Merci de nous avoir écoutés, en tout cas pour ceux qui l'ont fait pendant donc une saison. C'était incroyable. Merci pour vos retours, que ça soit sur les réseaux. C'est vraiment, ça nous donne énormément de force. Et aujourd'hui, voilà, on continue, on ne s'arrête pas. Et je pense peut-être qu'on ne s'arrêtera jamais.
J'aime bien la proposition.
Yes, donc voilà, aujourd'hui, je te laisse parler du thème, je te laisse présenter
alors,
tout ça,
alors,
parce que c'est un thème bien spécial.
Bien, bonsoir, on va reprendre avec les bonnes bases. Vous êtes bien sur C'était mieux avant, sur Mon Paris FM.
Let's go.
On rappelle, le avant, c'est quand? C'est 90,
yes.
2005, et à partir de 2006, c'est le maintenant.
Oui.
Aujourd'hui, je rappelle qu'on est en septembre, qui dit septembre dit rentrée, mais aussi un très très gros événement qui se prépare, c'est l'événement Afrique Diaspora.
Yes.
Donc normalement, je crois que c'est à partir du 28-29 septembre.
Ça arrive.
Et forcément, qui dit Afrique Diaspora dit diaspora.
Diaspora.
On est d'accord. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, c'est une thématique très spécifique.
Totalement.
Et bien particulière. Ça
Totalement.
Va être, est-ce que c'était mieux avant, l'organisation des diasporas.
Diaspora. Wow.
Donc, moi, j'ai bien hâte d'avoir l'avis de nos différents chroniqueurs que je vais commencer par présenter, saluer et remercier pour la première saison.
Yes.
Bonjour Benoît, comment est-ce que ça va?
Bonjour à tous. Bah, écoutez, moi, ça va très bien. Et je suis ravi d'être parmi vous ce matin, cet après-midi, ce soir. Ça dépend
Merci.
Pour les gens.
J'aime bien. Comment est-ce que ça va, Ad?
Ça va très bien. On est en forme pour cette rentrée, cette nouvelle saison.
Mm-hmm.
Très heureux d'être là.
Heureux. Yes. C'est plaisir.
Tous. Nous sommes tous et toutes
ouais.
heureux.
Yes.
Oui,
de
j'aime
Tricy.
Bien. Yes.
Bah, écoute, ça nous fait très plaisir de t'avoir avec nous pour une deuxième saison. Hello, Jeremiah.
Yes, sir. Jeremiah. Moi, c'est toujours Jay, a.k.a. Blanc l'avenir, a.k.a. Bab to the future.
Yeah.
C'est tout? Il n'y a pas d'autres a.k.a.
J'aime beaucoup cette présentation.
Ah, si, il y en a
plein.
Ah, Spell, qui spell, qui tout non. Ah, bon, mais a.k.a. Green Spell, a.k.a. le général.
Et comment est-ce que ça va?
Ouais, ça va.
Les vacances, ça va?
C'est bien passé?
J'ai pas eu de vacances, je suis en recherche d'emploi.
Ok.
Mais t'as
toutes les personnes en recherche d'emploi, gros big up.
J'ai bien bossé et j'arrive. Ouais. Avec mes acolytes, vous inquiétez pas.
Ça sert à rien de présenter son personnage. T'inquiète.
À pas comprendre les acolyques, parce que c'est
non,
pas la
c'est
même
pas,
chose.
C'est pas la même chose. Ça ressemble,
mais les acolytes anonymes.
Allez.
Donc, tous nos chroniqueurs sont
là, en forme.
Ils sont très 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 en forme. Donc moi, la première question que j'ai bien pouvoir vous poser, c'est quand je vous dis diaspora, quel est le premier mot qui vous vient en tête, à l'esprit?
Oui.
Noé, vu que t'es chaud comme ça, je te laisse commencer.
Moi, quand j'entends diaspora, pour vous dire, je sais que pour certains là, c'est un thème. Il y a des gens qui ont dit diaspora, mais de quoi ils parlent? C'était mieux avant diaspora. Il y a des gens qui sont perdus. La diaspora, c'est très vaste. Finalement, on peut parler de plein de choses.
Mm-hmm.
Moi, quand je pense à la diaspora, je pense à ma maman qui faisait ce qu'on appelle les cantines à la maison. Et voilà, en fait, réunir toute la famille, que ça soit en gros au sud de la France, à l'ouest, partout, et qui sont réunis chez moi et qui discutent de tout et de rien. Et après, qui se mettent à mettre de l'argent comme ça.
Yes.
Ils jettent de l'argent comme ça
yes.
et ils disent, bon,
on
en fait
quoi?
On en fait quoi de l'argent, tu vois? Et vraiment, je voyais de la famille un peu de partout. Je dis la France, mais en fait, ça peut vraiment être de partout, même en Europe, finalement.
Ouais.
Et tous réunis chez moi pour faire un point sur ce qu'ils vont faire à l'avenir.
J'aime beaucoup.
C'est comme ça que je le vois.
Ok, donc, toi, il y a rassemblement familial.
Exactement.
Ok, Benoît, quand je te dis diaspora?
Moi, je pense à communauté.
Oh.
Ouais.
Tout simplement parce que la diaspora, c'est surtout une communauté qui vient de quelque part et qui se retrouve ailleurs. Donc, c'est aussi, comme dit si bien Noé, le moment de se rassembler. Donc, moi, c'est vraiment la communauté.
Ouais.
Ok.
C'est beau.
Okay. J'allais dire communauté aussi.
Je sais.
Ah bah c'est bon, bah, je vais passer ton tour.
Voilà, non, je vais laisser un petit peu réfléchir. Jeremiah.
Moi, quand j'entends diaspora, je pense au Tiep.
Waouh.
Yes.
On va laisser développer.
Non, mais vous inquiétez pas.
J'aime beaucoup.
Non, mais c'est... C'est bon le Tiep.
Je suis d'accord avec toi.
Et c'est quoi le rapport
Non, bah, je pense que c'est une des choses que, enfin, c'est quand la diaspora, quand la diaspora s'installe ou s'exporte, elle ramène avec elle sa culture, notamment sa culture culinaire. Et voilà, je pense que chacun devrait au moins une fois avoir le droit. Ça devrait être, en fait, la Sécu ou la CAF devrait donner le droit à chacun de manger au moins une fois un Tiep. Pour découvrir le secret de la vie, voilà.
Le secret de la vie, c'est très très beau. C'est
incroyable.
Très poétique. Donc là, on parle vraiment sur du culinaire. Ad, est-ce que tu as trouvé ton mot?
Mais c'est vrai, en vrai.
Ou est-ce que tu veux que je dise le mien?
Ouais. Donne le tien.
Okay. Alors, pour moi, bah, en fait, ça va vraiment rejoindre ce que vous disiez, les garçons. Pour moi, c'est investissement. Pour moi, en fait, vraiment, la diaspora, si je ne peux pas dire organisation, c'est vraiment investissement. Parce que c'est un investissement de temps.
Totalement.
C'est un investissement aussi financier. Non, pas peur des mots. T'inquiète, j'allais arriver. Il faut juste me laisser la parole. Ça te dérange pas. Merci bien.
Je suis désolée.
mais c'est aussi un investissement culturel parce qu'il y a justement cette volonté de préserver une partie de la culture.
Totalement.
Ad, ça y est, le temps est écoulé.
Allez, Ad, vas-y, un petit...
Ouais, pour moi, c'est vraiment cette notion de groupe et une nécessité.
Ouais.
Oh,
ouais.
Nécessité.
C'est vrai. Hein.
C'est le thème qui va beaucoup revenir dans mon argumentaire.
Je vais te rejoindre là-dessus parce que je suis totalement d'accord avec ce terme. Nécessité.
Nécessité.
Totalement d'accord.
Ce sont des termes, je pense, très pertinents.
Ouais.
Et peut-être avant de parler complètement diaspora, est-ce que Jeremiah, tu voudrais bien nous rappeler quelle est la définition même de diaspora?
Alors, je suis sur le site de histoireimmigration.fr, donc qui est le musée de l'immigration à la Porte Dorée.
Ouais.
Le terme diaspora vient du grec spiro, qui veut dire je sème.
Wow.
Il désigne habituellement les populations chassées de leur pays qui entretiennent entre elles des liens affectifs, culturels, économiques et politiques par-delà les frontières.
Waouh!
Yes. Ben, comme ça, vous avez une vraie définition.
C'est clair, net et précis. Hein.
Exactement.
Une balle de sniper. Super, merci.
Yes,
franchement, moi, j'aime bien. Il n'y a, rien de plus simple. Voilà.
Plus simple.
Alors, maintenant qu'on a fait un petit tour de table, est-ce que Noé, tu veux prendre la parole pour nous donner un petit peu ton avis sur la diaspora?
Bah ouais, totalement. Bah franchement, totalement. Je vais essayer de base. Voilà, c'est un thème pour moi qui est assez compliqué parce que j'ai l'impression de ne pas être encore assez mature pour comprendre tout ça, pour être honnête avec vous. Ma mère, du moins mes parents, organisaient énormément de réunions chez moi. Moi, d'un point de vue extérieur, je voyais juste vraiment ma famille venir boire, manger, rigoler. Mais je ne comprenais pas en fait l'enjeu réel. Et il y avait vraiment un moment où, avant tout ça, ils étaient tous très sérieux, tu vois, et se mettaient à parler de mon pays, Cameroun, et parler de certaines choses, certains enjeux que j'avais du mal, moi, à comprendre. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, mine de rien, ces rassemblements-là, pour eux, il y a un but. Par exemple, construire des terrains au pays, investir sur, ouvrir un commerce en France et vraiment le faire de manière donc, communautaire, donc vraiment qu'avec la famille. Mmh. Et moi, j'ai même encore aujourd'hui, tu vois, je vais dire un truc super drôle, mais par moments, les projets n'aboutissent pas forcément, tu vois. Mmh. Mais juste déjà de se réunir ensemble en famille, avec une volonté commune et une ambiance, c'était quelque chose de beau. Quand je voyais ça, tu vois, en étant jeune, c'est quelque chose qui me faisait plaisir. Et je me dis, moi, aujourd'hui, demain, est-ce que je ferais comme mes parents? Est-ce que moi, je vais réunir mes cousins camerounais et leur dire, bon, venez chez moi plus tard et je sais pas, tu vois. Donc, j'ai l'impression que, mine de rien, moi, pour ma position, j'ai envie de dire que la diaspora, en tout cas, avant et aujourd'hui, je vois une différence. Je ne sais pas si nos générations clairement vont essayer de, en tout cas, rassembler nos frères, nos cousins, ou alors on va rester dans notre coin, je ne sais pas. Pour ma part, je n'arrive pas encore à me positionner, mais en tout cas, je pense que j'essaierai de faire honneur à mes parents quand même, puisque je les aime. Et voilà, je pense que dans ce qu'ils faisaient, dans ce qu'ils font encore, il y a de l'idée de rassembler les personnes avec qui on a grandi, de loin ou de près. C'est toujours intéressant, et de faire ça avec des gens qui ont la même culture que nous. Voilà, c'est toujours intéressant de le faire. Voilà.
Je valide, hein. Franchement, je valide énormément.
Assez simple, ça vient du cœur. Ça vient du cœur, voilà.
Je me reconnais parfaitement dans ton témoignage.
Merci.
Bah, j'aime beaucoup. Alors, moi, je vais te poser une petite question. Est-ce que tu as un top 1 et top 3 d'actions concrètes intéressantes que tu as pu soit expérimenter, soit que tu voudrais expérimenter par rapport à l'organisation justement de la diaspora?
Ouais, bah franchement, j'aime beaucoup. Moi, l'une des premières idées, c'est vraiment de se cotiser Donc, ils mettaient tous une somme à peu près, donc, par exemple, 20 euros, tu vois. Mm-hmm. Et ces 20 euros retournaient donc, chez la personne qui organisait donc, un petit buffet, tu vois. Chacun se cotisait pour la personne qui organisait un buffet. Donc, ma mère recevait vraiment plein d'invités. Donc, il pouvait être une trentaine chez moi.
Donc, elle prenait des salles,
tu vois.
Elle prenait
elle prenait des vrais billets, tu vois. Et je me dis, ça va lui servir à quoi? Et je voyais derrière qu'il y avait une sorte d'organisation dans le sens où un jour, c'était elle, un jour, c'était une autre tata et en gros, ils essayaient de se mettre bien une personne qui était en galère. Voilà, on se cotise tous pour cette personne-là. Mm-hmm. Et tu vois, nous, aujourd'hui, il y a les cagnottes, tu vois.
Ouais.
Eux, ça date, en fait, ils font les cagnottes. Et moi, je ne m'étais pas rendu compte de ça,
et
tu vois.
Cette
organisation-là, eux, ça date, tu vois. Donc, il y a toute cette partie-là. Et je pense qu'une action aussi qui m'a beaucoup plu, comme je vous ai dit au début, c'est vraiment de faire des terrains au bled, tu vois. Donc, d'investir ici en France pour qu'au bled, demain, donner une personne qui est directement sur le terrain et lui dire, vas-y, construis ça, fais ça. Je trouve qu'en vrai, c'est quelque chose qui est bien et qui peut être, en tout cas, quand c'est mené jusqu'au bout, ça peut emmener des vraies choses, un vrai bénéfice, tu vois.
Je suis carrément d'accord avec toi et je trouve qu'on retrouve beaucoup ça. Après, Wafa et Ad m'informeront si je me trompe ou pas, mais qu'on trouve beaucoup ça chez les communautés subsahariennes et caraïbaines.
Exactement.
Il y a vraiment cette idée de, en fait, nous, on est vraiment que de passage en France.
Ouais.
Il n'y a aucune volonté de se pérenniser sur le sol français. Mmh. On souhaite tous partir. Et après, bien évidemment, c'est le fait que la vie est compliquée ou que les projets, comme tu dis, n'ont pas abouti. Mais il y a toujours cette pensée de « Ouais, on pense ailleurs, on ne pense pas ici. »
Donc,
complètement d'accord.
Ouais, totalement.
Donc nous, c'est ça. Et du coup, c'est normal en fait, qu'il y a cette organisation que tu as décrite. Mmh. Parce que vraiment, on est vraiment attaché à la racine. Et que c'est un peu par dépit qu'on est ici. Il n'y a pas de vivre l'idéal français. C'est on va en France parce que parce qu'il y a une nécessité.
Totalement.
La France, il y a une capitalisation des richesses du monde qui se trouve en France.
Totalement.
Donc du coup, on va en France pour aller récupérer un peu de butin et ensuite ramener au pays.
Mais c'est une très bonne logique hein, avec du recul. En tout cas, voilà.
J'aime bien. Et donc à la question, est-ce que pour toi c'était mieux avant, tu n'as pas vraiment répondu.
Comme je te dis, c'est en tout cas l'aujourd'hui dépend vraiment beaucoup de nous. Tu vois. Donc moi, pour l'instant, pour moi, c'est mieux avant parce que je considère que, comme je t'ai dit, il y a, j'allais dire un manque de maturité, mais ça va encore plus loin que ça. C'est un manque de savoir aussi, tu vois. Je connais pas encore vraiment l'envers du décor. J'ai pas demandé à ma mère comment ces projets se sont passés, tout cet argent où elle est passée. Mais avec du recul, au final, dans l'idée, moi, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Et pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vu et de la manière dont j'ai grandi, j'aurais tendance à dire que c'était mieux avant. Parce que finalement, il y a eu des vagues d'immigration, tu vois. Et en tout cas, la vague d'immigration, on va dire, concernant mes parents, finalement, il y a beaucoup de positifs parce qu'ils ont su m'éduquer du mieux qu'ils pouvaient. Mmh. Et mine de rien, il y a une vraie communauté. En tout cas, je me suis senti avec une vraie communauté camerounaise. J'ai grandi avec cette communauté-là. Et ce qui fait que j'ai tendance à me dire que c'était mieux avant. Et tu vois, aujourd'hui, ça devient très différent. Tu vois, j'ai grandi et justement, je suis moins entouré de Camerounais qu'avant, tu vois.
Okay.
Et quelque part, je me dis, quand même, avant, j'étais avec ça autour de moi, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai grandi et j'ai élargi la diversité culturelle, tu vois. Donc, pour moi, c'était mieux avant. Voilà.
Ok. Ok.
All right.
Je prends, il n'y a pas de souci.
Yeah.
Alors, je pense qu'on va commencer les jeux.
Ouais.
Oh, yes.
Ouais. Ça y est, vous êtes prêts? Ça fait un petit moment, 2-3 mois qu'on n'a pas fait de jeu. Donc là, on va partir sur un petit QCM.
Ouais.
D'accord? Doucement, tranquille.
Tout doux, le loup.
Tout doux. Ça va être des questions assez.
C'est la rentrée, on commence avec un contrôle.
Un QCM, une dictée. Oh là là. Et merci, juste après, j'espère que vous avez fait réviser les mathématiques. Parce
non, là,
que c'est...
là, c'est l'histoire.
J'étais parti sur les maths.
Non, mais alors, vous inquiétez pas, c'est pas noté. C'est vraiment le premier contrôle. Donc vous inquiétez pas, ce sera pas noté. Mais c'est juste pour savoir comment est-ce que vous vous positionnez. Est-ce que vous avez pu apprendre un petit peu des trucs par rapport aux différentes diasporas qu'il y a en France? Parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de diversité culturelle en France.
Yes.
Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des connaissances, on va dire, plus ou moins basiques. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.
c'est ce qu'ils disent les profs avant de nous juger.
Zéro,
tu la connais, l'évaluation, juste pour voir ton niveau, mais à la fin, par contre, Jordan, j'ai pas compris. je ne comprends pas comment...
S'il vous plaît, les enfants, lisez la consigne.
Donc, première question, à choix multiple.
Yes.
Quelle est la plus grande diaspora d'Europe en France? Portugal, Italie ou Espagne?
Oh, portugaise.
J'aurais tendance à, ouais, j'aurais tendance à dire Portugal.
Ouais,
Portugal,
pourquoi?
Portugal.
Ah, ça c'est Portugal, Italie ou Espagne?
C'est ouais. L'un des trois.
Ouais. Ah bah oui, portugais, je pense, bah oui. Ouais.
Parce que j'en ai beaucoup côtoyé.
Un petit mot en portugais là, à dire là, rapidement.
Obrigado.
Obrigado. Bon dia, Gaio Bach. Amanda va déchirer.
Ok, merci.
Ça.
Ah bah, je pense que si on sait tous dire un mot portugais. Je sais pas c'est quoi la réponse, mais...
Que voulais-je dire? Ouais, c'est vrai que c'est la communauté portugaise qui est plutôt bien présente, en fait, parce qu'elle représente quand même deux fois plus que les communautés donc, italiennes et espagnoles. Les diasporas, pardon, italiennes et espagnoles.
Yes.
Donc là, ça va. Ah, c'est bon, vous connaissez.
Okay. C'est le premier de la
classe. Deuxième petite question. Oui, tu l'as fait?
Ouais, bah, j'ai envie de vous dire, du coup, quelle est la première diaspora de France, en fait, en France, maintenant, directement.
La première qui est arrivée.
Qui est arrivée en France.
C'est ça.
La première qui est arrivée, pas la plus nombreuse.
Oui,
celle qui est arrivée en premier sur le territoire français.
Exactement. Donc, on va avoir l'Italie, la Belgique ou l'Espagne.
L'Espagne.
Oh.
L'Italie, Belgique ou Espagne.
Ouais.
Espagne.
Ok.
Bah, par rapport au rapprochement géographique, tu penses.
Bah, les trois, ils sont collés à la France.
Bah, déjà, arriver en France, à partir du moment où la France s'est appelée la France, du coup, c'est ça? Parce que là, avant, c'était le Royaume-Uni.
Tout récent, genre siècle dernier. Récent.
T'inquiète pas.
Waouh. Ouais, par rapprochement géographique, je dirais l'Espagne aussi. Hein,
Espagne aussi Eh bien, messieurs, dames, non.
C'est la Belgique.
Non plus.
C'est l'Italie.
C'est l'Italie.
Avant les Italiens.
Camille au backstage. Oui, bah, c'est l'Italie, Camille.
On pense à toi, Camille.
Avec Marseille, peut-être, du coup.
En fait, il faut déjà comprendre qu'il y a une partie de l'Italie qui était française jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Genre, il y a 150 ans à peu près. Et tout ce qui est Nice et compagnie, c'était encore italien. C'était
italien.
Ouais, Napoléon, il est parti, il a récupéré des terres.
Anyways, donc en fait là c'est vraiment à partir de 1911 on considère que il y a une vraie diaspora italienne. Avant ça, tu avais une immigration espagnole, belge ou italienne, mais il y avait pas une organisation justement ces immigrés qui sont arrivés en France.
On y était presque.
Ils sont venus en bande organisée, tu vois. Ils savaient où ils voulaient.
Ils avaient des projets.
Tout le sud de la France là, c'est nous maintenant. Tu vois, donc voilà.
Ok, dernière question. Quelle est la nationalité étrangère la plus présente en France?
Ah là là là.
Et forcément, c'est en résonance avec la diaspora la plus présente en France.
Ah là 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 là.
La nationalité étrangère la plus
présente. L'Algérie.
Alors attendez. Algérie, Mali ou Portugal?
Voilà. Déjà.
Alors.
Algérie.
Ouais. J'ai envie de dire Algérie.
Il y a Marseille, il y a une ville algérienne en France.
Okay. Oula, attention.
Aujourd'hui, on dit algérien.
On a tous raison.
Mais bien entendu.
On va pas vous contredire.
Sachant que, alors, il y a 87% des immigrés qui vivent en France qui sont nés en Afrique. Et il y en a 32 qui sont nés en Europe. Donc, il y a une plus forte diaspora, on va dire, africaine en France. Européenne, sachant que quand on regarde bien, la diaspora algérienne, elle représente 12%, marocaine, on est à 11%, Portugal, 7%, et tunisienne, 4%.
Ouais.
Donc ça va en fait, c'est pas des écarts énormes, c'est pas des diasporas comme on peut avoir aux États-Unis par exemple, ou au Brésil, à majorité écrasante.
C'est fou, hein?
On est bon?
Ouais, c'est fou. Bah, tu sais que moi, j'avais posé cette question à mes amis.
Ouais.
Bon, maladroitement, ils m'ont répondu, c'est pas les Arabes. Wow. Et j'aurais dit, non, les gars. Et tu sais, je regardais les réponses et j'étais en mode, ils ont pas tort en fait. Parce que je vois Algérie, Tunisie, Maroc sur le podium, je me dis, ah oui, ils ont pas tort.
Après, c'est les restes de la colonisation.
Exactement, il y a des raisons. Ça, c'est pas le hasard.
Non, c'est pas ça. Vous savez très bien c'est quoi le sujet. On va le mettre sur la table.
On reviendra sur le sujet tout à l'heure. Je pense que je vais prendre la parole pour vous donner mon avis avant d'enchaîner avec nos autres chroniqueurs. Concernant la question, est-ce que l'organisation de la diaspora c'était mieux avant? Je pense qu'il faut rappeler que une diaspora, ça s'organise aussi avec le temps, parce que comme disaient tout à l'heure Noé et Benoît, la majorité des personnes qui sont venues dans un autre pays, donc en Occident très souvent, ils sont venus par nécessité. C'était à la base ponctuel et finalement, ça s'est prolongé. Donc, je pense qu'avant même de donner mon avis, il faut aussi que je parle d'un sentiment que beaucoup de nos parents connaissent. C'est l'espèce de sentiment de trahison dû à l'immigration. Donc, il y en a beaucoup quand ils sont venus en Europe, ils ont l'impression d'avoir trahi le pays. Et ils sont un petit peu redevables au pays, donc ils essayent de s'organiser pour faire au mieux pour eux, parce qu'ils veulent retourner là-bas, mais aussi bah, pour tous ceux qu'ils ont laissés là-bas. Donc moi, je vois, enfin, je l'ai vu avec mes parents. Petite anecdote, moi, je sais que depuis quasiment 25 ans, en fait, quand il y a eu le début de ma famille qui est venue en France, ils avaient tous une requête après, à demander en fait, au gouverneur donc, de ma région en Tunisie, c'était de créer certaines routes. Donc ça, mon père, il l'a fait quand il est arrivé en France. Après ça, mes oncles l'ont fait. Et même moi, j'ai participé à cette requête-là en écrivant des lettres. Donc l'idée, c'est de dire, on est une diaspora qui s'organise, nous avons un poids et on a le droit de réclamer finalement un dû. Parce qu'on va écrire les lettres en français, en arabe. Et forcément, quand on repart au pays, on a aussi un pouvoir d'achat. Ouais. Donc moi je trouve que c'était très beau parce que c'était vraiment genre à leur échelle, c'est vraiment la route de derrière chez moi. Aujourd'hui elle est faite, ça fait très très plaisir, je vous cache pas, de dire ah j'ai pas écrit des lettres pour rien. Mais voilà comment est-ce que ça s'organisait. Maintenant, si je suis honnête, c'est vrai que j'ai vu énormément de très très bonnes bases par rapport à la génération de nos parents, que ça soit par rapport aux tontines, par rapport, comme tu disais tout à l'heure, à l'investissement dans les terrains, dans les magasins aussi. Mais si je suis honnête, j'estime qu'aujourd'hui, on a trois choses qui nous différencient par rapport à l'ancienne génération. Ça va être le passage à l'action qui est beaucoup plus rapide, notamment via les réseaux sociaux. Ouais. Je l'ai vu à travers Facebook, il y a une vraie organisation communautaire, en fait. C'est vraiment le terme, c'est vraiment la communauté qui va s'organiser. Ça veut dire qu'une personne, elle va créer un groupe avec un titre clair, précis. Mmh. Et à partir de là, bah, chacun peut participer. Peu importe où est-ce qu'il est finalement dans le monde.
Ouais, Facebook, et... WhatsApp, ouais, beaucoup utilisé.
Beaucoup, non, beaucoup, vrai, beaucoup. Et j'ai vraiment l'impression que c'est venu vraiment genre de Facebook avec les groupes Facebook.
Ouais, bien sûr.
Et après ça, ça s'est déporté un petit peu sur WhatsApp avec nos tontons et nos tatas. Je trouve que l'organisation, elle est plus simple parce qu'on sait vers où on va. Ça veut dire qu'avant, forcément, bah, quand il y a toutes les fondations à faire, il y a énormément de choses à faire. Là, aujourd'hui, on a juste les fenêtres à poser. Donc, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de chercher pendant 12 heures qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit s'organiser, etc. Il y a autre chose, c'est la notion de préserver aussi la culture, finalement. Je trouve que... Bah, ça, par exemple, on l'a un petit peu moins que la génération de nos parents parce que forcément, il y a une mixité sociale, il y a une mixité culturelle qui va exister. Mais en même temps, j'ai l'impression que notre génération, on veut se reconnecter encore plus à notre culture et ça passe forcément par les événements créés par les diasporas. Donc, je trouve que ça aussi, c'est maintenu. C'est pas mieux qu'avant, mais c'est maintenu. Et la seule chose où je me dis c'était peut-être mieux avant, je pense... En toute franchise, on a créé une flemmardise. Je m'explique.
Oh, j'aime bien quand... ce terme.
Moi aussi,
il me parle.
Moi, j'aime pas.
Flemmardise Records présente.
Continue.
En fait, le problème de la diaspora, c'est qu'au tout début, on la voit comme une béquille. Donc, elle vient aider les projets qui sont créés par les locaux, par les gens du continent. Sauf que sur le long terme, ces personnes-là qui avaient des tafs, qui avaient des projets, etc., bah, elles vont avoir tellement l'habitude d'utiliser cette béquille qu'elles vont arrêter d'utiliser leurs pieds, finalement. Et elles vont se reposer que sur cette béquille-là.
Wow.
Sur le long terme, ça fait des dégâts parce que ça crée une flemmardise généralisée où beaucoup de personnes ne vont même pas essayer de faire quelque chose en se reposant, justement, sur la diaspora, en se disant... Bah, ils nous ont un petit peu trahis, ils nous ont quittés. Donc, c'est à eux, finalement, de construire plus, de faire plus. Totalement. Donc, pour moi, ça va être un petit peu la limite, justement, de la diaspora. C'est comment faire en sorte d'aider le pays, de préserver la culture, de faire en sorte qu'il y ait des vrais projets qui voient le jour, sans pour autant handicaper, finalement, l'ambition d'autrui. Donc, pour moi, ça reste mieux maintenant parce qu'il y a énormément de choses qui ont pu être mises en place. Mais il y a cette limite-là qui est quand même posée et les questions, finalement, la question, elle reste en suspens. Comment faire pour aider autrui sans qu'il s'appuie trop sur nous ?
Mais c'est ça. Mais tu sais que, enfin, pour les anecdotes, j'aime bien, là, aujourd'hui, je suis en mode anecdote aujourd'hui. Mais quand moi, je voyais certaines choses, je voyais que, par exemple, mon père, il a investi sur un terrain, tu vois, au bled. Il a investi pendant 2-3 ans, tu vois. Et tu sais, le terrain prend énormément de temps à se faire, tu vois. et ils se rendent compte que la personne à qui donner de l'argent,
ouais. C'est triste, hein.
Classique.
Hein. Voilà, j'ai classique au Madrid. Tu vois, j'aime pas finir ma phrase. J'ai... Tout le monde a compris.
Classique.
Le gars, il va en boîte, il va en truc. Ouais, en fait, et il lui dit, ouais, ça avance. Mais tu vois ce que je veux dire? Et ça, ils se rendent pas compte que nous, en fait, on bosse en France, tu vois. Même si pour eux, ça paraît comme un. Ouais, exactement. En mode, ouais, mais en France, c'est facile, c'est ça, ils ont de l'argent, ils ont du truc. Pas du tout. Ils se rendent pas compte, tu vois. Et ça, même encore aujourd'hui.
Mais,
bah, y a tu sais
qu'en fait, ça a créé vraiment des traumatismes. Mais aujourd'hui, il y en a, ils ne retournent plus au bled
à cause de ça. Ouais, ouais.
Il y en a, ils ne retournent plus au bled. Il y en a. En fait, le retour au pays, c'est devenu une bataille. Tu te prépares psychologiquement à te dire waouh, je vais devoir demander mon dû. Alors que c'est juste, tu n'es pas censé faire ça.
Tu vois,
donc, du coup, ça a été très, très compliqué. Je pense que toutes les communautés y sont passées.
Ouais.
Et je sais que les enfants aussi, des parents, on a grandi avec ce truc-là, on se dit « Ah ouais, attends, les gens du bled, faut faire gaffe, parce qu'ils peuvent nous la mettre à l'envers. »
C'est ça.
Le but initial, c'était de créer
une solidarité, et malheureusement...
Après, c'est l'humain, et je pense que ce qui est important, moi, je l'ai vu avec mes parents, c'est que, tu sais, quand tu rentres au pays, t'as envie de faire plaisir.
Ouais.
T'as envie d'offrir des cadeaux, etc. Et moi, franchement, j'ai vraiment eu tous les exemples dans ma famille. Ça veut dire que j'ai eu un de mes oncles, chaque année, quand il rentre, il fait des cadeaux à tout le monde, alors que vraiment, genre, on s'essuie les pieds sur lui, et ça me fait énormément de peine. Là où mon daron, il est rentré un premier été, il a fait des cadeaux à tout le monde. Deuxième été, il a fait des cadeaux à tout le monde. Troisième été, il a dit non. Et j'étais en mode, mais attends, tu vas faire des cadeaux à personne? Et il a dit, si, je fais des cadeaux à ceux qui m'en font. Et l'idée, c'est pas tant... la valeur de la chose, mais c'est vraiment la pensée. C'est cette personne-là, elle a pensé, par exemple, je sais pas, moi, quand elle a fait sa cueillette, à me laisser ma part de côté. Bah, écoute, elle mérite un cadeau. Et ce tri sélectif-là, je pense que... J'ai pas envie de dire trop bon, trop con, mais trop
non,
bon,
mais
trop con.
Non, mais il y a un terme, c'est pas ça.
Y a un truc comme
c'est quoi
ça.
Le terme?
Il y a un terme, mais on le connaît tous. C'est le complexe du sauveur.
Oui,
c'est ça.
Exactement.
On a nos parents ont eu un complexe du sauveur. Et d'ailleurs, c'est héréditaire, ce truc-là. On l'a automatiquement. Nos parents ont ce complexe de sauveur-là, bah, en fait, c'est des mécanismes d'action que tu vas répéter. Parce que tu as tellement vu tes parents faire ça que inconsciemment, quand tu vas te retrouver dans un contexte similaire, tu vas vouloir aider sans te dire que peut-être qu'en fait, ton aide, ça va se transformer sur de l'assistanat.
C'est exactement ça. Bah
Or
oui,
qu'en réalité, le but, c'est de donner les gens le moyen de se développer par eux-mêmes.
Exactement.
Et c'est pour ça que tu as eu des familles, moi je parle de mon expérience personnelle, tu as eu des familles où, en gros, lorsqu'ils ont investi au bled, ça a fait que les gens en bled se sont développés et tu vois, les gens au final, ils avaient leur business là-bas.
Ils sont devenus
indépendants, ça se passait très bien. Et tu as d'autres familles où, clairement, les gens étaient devenus des assistés, mais parce qu'à chaque fois, les parents, quand ils arrivaient,
ils voulaient
tellement faire plaisir, ils voulaient tellement aider parce qu'ils avaient conscience de leurs difficultés. Ils se disent, je vais vous donner. Et au final, les gens, pourquoi travailler? Pourquoi
Exactement.
Faire quand je sais que j'ai juste à attendre 6 mois et j'ai l'équivalent concrètement d'une année de travail. Et ça, c'est pas parce que nos parents étaient riches, c'est juste parce que la monnaie n'avait pas la même valeur.
Et je pense qu'ils avaient aussi beaucoup plus le sens du sacrifice que nous. Aujourd'hui, on se sacrifie différemment.
Ouais. Je suis tombée sur... Hier, je pense, une femme sur les réseaux, sur Insta, qui parlait de ce sujet justement et qui parlait d'une surgénérosité de nos parents typiquement quand ils retournaient dans leur pays où il y avait un truc où ils se sentaient redevables.
C'est la trahison de l'immigration, ça.
Ouais, alors que pour certains, ils n'ont même pas choisi de partir. Et il y a ce truc, comme tu dis, qui fait que ce côté assistanat, ça devient presque un dû.
Oui.
Ils attendent après, c'est normal.
Après, on nous fait des listes, je ne sais pas si ça vous est déjà
arrivé. Ah oui, bien sûr.
Mais on te fait
Mais vraiment, entre les listes et entre quand tu sors et que tu sors avec ta famille et que la personne, elle ne prend même pas son portefeuille, ça veut dire qu'elle sait que c'est toi qui vas rincer.
Bah, tu vois, c'est là où je te dis ce qui est difficile, c'est de mettre des limites claires et concises. Parce que d'un côté, tu te dis, je sais qu'on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas le même pouvoir d'achat, puisque la devise, elle existe, il ne faut pas mentir. Mais d'un autre côté, tu te dis, les habituer à ça, c'est comme pourrir un enfant.
C'est ça, en fait.
C'est le truc, c'est que vu que c'est un élan collectif, en fait, il aurait fallu que les États, du coup, structurent le bail. C'est-à-dire, OK, vous venez avec des biens, c'est bien, mais si vous voulez vraiment aider, faut pas donner comme ça, faut que ce soit un truc collectif.
Alors le problème c'est que
malheureusement les États sont corrompus.
Ils ont pas c'est ça,
malheureusement ils sont trop gourmands.
Du coup, on se retrouve en fait avec
livré à nous-mêmes, chacun fait
mais les gars ça fonctionne pas.
Bah oui.
Après je pense que ça fonctionne à certaines échelles. Sur certains points ça peut fonctionner quand même.
Oui, bien sûr.
Sur d'autres malheureusement c'est encore dysfonctionnel. Après je rappelle que c'est quelque chose de très récent. Je pense que les premières vagues d'immigration, c'est quoi, les années, allez, on va dire 70, si je suis honnête. Donc c'est quelque chose de très 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 jeune, sachant que nos parents et nos grands-parents, ils n'avaient pas forcément le mode d'emploi de comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on fait. Forcément, il y a eu des pots cassés dans l'histoire et je pense que ça va être vraiment notre génération qui va peut-être être un tournant dans cette histoire-là de prise de position. Donc voilà, moi je trouve que voilà, il y a vraiment moyen de faire mieux. Ça ne dépend que de nous finalement, mais je salue vraiment le taf que nos parents ils ont fait parce que c'était, enfin c'est pas que c'était pas leur priorité, mais leur priorité ça restait de nous nourrir. S'il faut parler français,
clairement.
Voilà, c'était de nous nourrir,
clairement.
De sécuriser,
même eux de se nourrir eux aussi,
nous éduquer, enfin voilà quoi, ils sont dans un nouveau pays donc s'adapter aussi surtout.
C'est ça.
Ouais, clairement.
Donc, ouais.
Après, alors, je vais quand même revenir sur différents types de
diaspora. De diaspora. Très important, très important.
Parce que, en fait, comment vous dire, ça va générer quelque chose. Je pense que vous allez comprendre que, selon la diaspora, il y a des réalités qui vont être diverses et variées.
Et même un fonctionnement qui va être différent. Ouais, totalement.
Bien entendu. Donc, on va avoir trois types, en fait, de migration. Donc, la migration forcée.
Celle-là, inutile d'en parler, on sait tous.
Bien entendu, on sait de quoi est-ce qu'on parle. La déportation et le transfert de population. Donc, s'il faut que je parle très français et très simplement, il va y avoir des diasporas qui ont choisi de partir et des diasporas qui vont subir ce choix. Et donc, à partir de là, en fait, quand on n'est pas bien, eh ben, ça se ressent. Et il y a des répercussions qui sont logiques.
Bien sûr.
Donc, quand on n'est pas bien, on va avoir tendance à avoir un syndrome qui va être soit celui de l'imposteur. Parfois, on va se sentir supérieur ou inférieur à ce qu'on a laissé ou à ce qu'on découvre aussi. Donc, je trouve que, en fait, cet aspect-là, déjà, ça nous permet de comprendre un petit peu mieux. Après ça, il me semble que c'est un sociologue, Cohen, donc qui distingue cinq types de diasporas. Les diasporas victimaires, donc qui ont été victimes de quelque chose, notamment des guerres. Les diasporas de travail. Donc, par nécessité, les diasporas impériales, les diasporas commerciales et les diasporas culturelles. Donc, on peut avoir plusieurs types de diasporas dans une seule, on est d'accord. Mais déjà, le fait de se dire que la possibilité de partir, le choix de partir et ses conséquences sont différentes, bah, je trouve que ça explique déjà beaucoup plus de choses.
Exactement.
Parce que là, à majorité autour de la table, on va parler de la diaspora africaine, mais je sais que ce n'est pas du tout les mêmes réalités pour les diasporas, je ne sais pas moi, asiatiques.
Asiatiques, portugaises, italiennes, en vrai, tout est différent.
Oui, européennes ou même très très long, genre l'Amérique par exemple. Elles n'ont pas les mêmes réalités, elles sont peut-être... Je ne sais pas si elles sont autant organisées, mais j'ai l'impression que plus le pays est proche...
Les communautés latinos, si je peux me permettre, sont très, très solidaires en France.
Ouais.
Pour te dire, si tu côtoies une personne d'Amérique latine, tu vas être en réseau quasiment avec tous les latinos qui sont par exemple à Paris.
Cool. Ça, c'est,
c'est assez incroyable.
Bah, ouais, en fait, j'ai l'impression que plus c'est loin, plus on est obligé de s'organiser, même si on est différent. Là où, par exemple, par rapport au Maghreb, ben, on va distinguer, on va dire « Ah non, moi, je suis algérienne, moi, je suis tunisienne, etc. » Mais parce que le Maghreb, c'est à côté... Au Canada, par exemple, littéralement, tous les Arabes, donc Asie et Afrique, eh ben, ils sont tous ensemble et ils sont obligés d'être solidaires parce qu'ils sont 5,5. Donc, c'est aussi une question à voir, sachant que je pense que je vais donner la parole à Benoît parce que justement, toi, tu es caraïbéen. Alors, est-ce que pour toi, c'était mieux avant ?
Bah moi, clairement, je pense que c'était mieux avant pour la simple bonne raison qu'on n'invente rien, nous, les nouvelles générations. C'est-à-dire que tout ce qu'on veut faire, nos parents l'ont déjà fait. La seule chose qui diffère, c'est les canons de communication et les outils qu'on utilise. Mais sinon, tout ce qui va être sur la solidarité, le fait de se rassembler, etc., ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Et donc, du coup, pour vous rappeler un peu du coup, l'historique, bah, du coup, moi, je suis d'origine haïtienne. Donc, du coup, je vais parler pour la diaspora haïtienne. Moi, j'ai connu les temps de l'organisation de la diaspora haïtienne, puisque mes parents, ou plutôt mon père, précisément, avec son groupe d'amis, dans les années 80-90, ils ont fondé leur association, du coup, qui s'appelait ACFE. Alors, ACFE, pourquoi ACFE ? C'était association, je crois, que des Colinois, de je ne sais plus quoi. En gros, il y a l'association, le nom de la région d'où ils venaient, ou du département dans lequel ils venaient d'Haïti. Et du coup, leur but, c'était de fédérer
c'était de fédérer du coup les Haïtiens qui venaient principalement de cette région, mais également de aider les nouveaux arrivants. C'est-à-dire, voilà, on sait qu'il y a telle personne qui va arriver en France, on va essayer de l'aider à trouver un logement, on va faire en sorte que certaines personnes l'hébergent, etc., on lui trouve un emploi. Et ça, c'est des choses qu'on essaye, je dis bien qu'on essaye de faire aujourd'hui, mais qui, dans les années 80, 90, se faisait vraiment naturellement. La question ne se posait même pas. Et je trouve que c'est ça la plus grosse plus-value par rapport à aujourd'hui, c'est l'aspect naturel. C'est-à-dire que, je viens d'arriver, il vient d'arriver, ben oui, la première chose que je vais faire, c'est soit l'aider à trouver un emploi, soit l'aider de trouver un logement, etc. Et tout à l'heure, Noé, il parlait de la tontine. Il faut savoir que nous, en Haïti, on appelle ça à la main sol. C'est la manière dont il l'appelle, mais c'est la même chose. Pareil, c'était également...
Est-ce que tu peux juste nous rappeler qu'est-ce que la tontine ? Parce qu'il en a un petit peu parlé.
Alors, la tontine, grosso modo, c'est un système de...
C'est une coopérative,
voilà, un investissement coopératif où, gros, tout le monde investit sur une somme dans l'année et chaque mois, quelqu'un récupère une partie de cette somme-là.
Okay,
et
merci.
Ça permet, du coup, d'épargner ou de financer des projets. Il parlait d'acheter un terrain ou de construire une maison, etc. Et même, tu parlais d'une route. Et ce système-là, il permet de financer ou d'épargner des projets sans passer par la banque, sans faire des emprunts ou des crédits.
Exactement.
Donc, c'est vraiment un système qu'on retrouve beaucoup en Afrique subsaharienne. Je crois pas trop en Asie, mais en tout cas, qui fonctionne très bien. Il est également présent dans la Caraïbe.
En Asie aussi.
Crois-moi que l'Asie, on va y venir.
C'est vrai, la communauté chinoise, oui, effectivement.
Ils sont pas là pour des règles, je peux te le dire.
C'est clair. Mais du coup, en tout cas, voilà, c'est un système qui existe dans le monde et ça aide beaucoup les communautés, quoi.
Ouais.
Du coup, ça existait beaucoup. Et moi, je sais que dans l'époque des années 80-90, l'époque où on va dire que mon père était très actif par le biais de son association, le but, c'était vraiment d'aider la communauté qui arrive ici, mais surtout d'aider la communauté au pays, comme on l'a évoqué, au travers de construction, que ce soit de routes, de logements, d'infrastructures, et également de soins médicaux. On n'en parle pas assez, mais la santé, c'est très coûteux au pays, c'est beaucoup plus coûteux qu'en France. Voilà, donc du coup, il fallait investir là-dessus. Et enfin, plus important pour moi, c'était le fait de la sociabilité.
Ouais.
Le fait de se retrouver entre Haïtiens, se retrouver également dans le voisinage. Donc vu que les Haïtiens, en général, ils aménagent dans les mêmes quartiers, dans les mêmes villes.
C'est cool ça.
Je sais que le 9-5, pendant un moment donné, t'avais quasiment tous les Haïtiens, ils étaient dans le 95.
Ouais, j'ai vu.
Tous les H.
Tous les H, tu vois. Et ensuite, ça a commencé un peu à aller vers le 9-3. Mm-hmm. Un petit peu vers le... Enfin, le 9-3, c'est quand même assez large, mais quand même le 9-3 proche du 9-5.
Ouais.
Je sais qu'à un moment donné, à Épinay-sur-Seine, t'as eu une grande vague d'immigration... haïtienne et tout, donc c'était assez drôle. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, les gens, ils immigrent jamais dans un quartier tout seul. Si quand t'as une famille, t'en as une dizaine qui arrive, etc. Donc du coup, il y a toujours ce truc-là, et du coup, ça permet de se réunir, tu vois, se réunir entre haïtiens et de créer une solidarité et d'élargir la solidarité. Parce que pour moi, en final, la diaspora, c'est la solidarité. C'est le but, c'est d'être solidaire. Et il y a un aspect aussi qui est très très important, qu'on parle pas assez, mais c'est aussi la transmission culturelle. Donc du coup, des traditions, etc. Il faut savoir, c'est que la fête, la musique a joué un très grand rôle pour la communauté haïtienne. Donc voilà, je vais parler du compas.
Oui.
Là, à ce moment, Jason, faut mettre du compas. Là, Jason, faut mettre du compas.
Là, je rigole. C'était à la rentrée, ça avait des pressions.
Ah si, mais un petit chui. Moi, je suis chaud, un peu de compas.
C'est là, mais nous, un truc doux, là.
Vas-y. Ça, comme ça, à capella.
Aïe.
Mais en tout cas, du coup, le compas, ça a permis de beaucoup fédérer parce qu'en fait, ça a instauré des moments de fête. Et il faut savoir que les Haïtiens aiment beaucoup la fête, ils aiment beaucoup la musique, ils aiment beaucoup...
Je pense comme toutes les communautés, quasiment.
Ils aiment beaucoup cet aspect-là, tu vois.
C'est incroyable.
Et donc, du coup, ils organisaient des soirées, en fait. Mm-hmm. Du coup, ils réservaient des lieux, il y avait des soirées. Et du coup, t'avais beaucoup d'Haïtiens et même d'entiers qui venaient. Du coup, pour certains, c'était le moment d'écouter du compas parce qu'ils aiment beaucoup ça. Et pour d'autres, c'était le moment de fédérer la communauté. Moi, quand j'étais petit, j'assistais à ces grandes fêtes et je voyais tous ces papas, tous ces mamans haïtiens qui étaient là, qui discutaient
dans
un truc.
Qui
se retrouvaient.
Il y en a qui dansent, mais il y en a qui sont réunis autour d'une table très sérieux.
Exactement.
Et ça parle argent.
Pendant qu'il y en a d'autres qui ignorent totalement.
Exactement.
C'est incroyable.
Et toi, quand tu dis, on est juste entre haïtiens, tu vois, et ça parle business. Ça parle et en même temps, ça permet aussi de rencontrer les entiers, parce que les entiers, ils sont là. Mmh. Tu vois, et nous, les haïtiens, mais eux, ils sont entiers. Et du coup, de se rencontrer autour de la musique, etc. Donc, c'était des événements
aussi qui était transgénérationnel. Et c'était sans ça que je trouve ça mieux, moi, avant, c'est que cet événement-là, aujourd'hui, d'équivalent, t'en as pas. Si tu crées un événement...
Parce que vous ne les avez pas organisés.
Non,
bah si, il y a la nuit du compas quand même.
Oui, il y a la nuit du compas.
Non, mais là, on parlait pas de ça.
C'est un événement, tu vois. Mais je trouve que les générations actuelles, on a du mal avec, à faire aussi bien la transgénérationnalité.
Okay.
Mais je pense qu'on peut le faire. Oui. Alors là, je suis totalement optimiste sur l'avenir. Mais ce truc transgénérationnel, il était de fait, tu vois. Il faut savoir que cette transgénérationnalité, tu la retrouves en Haïti, parce qu'en Haïti, il n'y a pas de séparation entre jeunes, vieux, enfants, jeunes, adultes et anciens.
Ouais.
En Haïti, on est tous ensemble, tu vois, on est vraiment tous ensemble. Et ce qui est assez drôle, c'est que parfois, quand tu parles à un enfant au bled, il te parle de la même manière qu'un adulte.
Ouais.
Et
ouais,
c'est trop drôle. Ouais. Tu vois, donc du coup, parfois, tu as des petits, ils sont avec leurs anciens et ça discute de la vie de tous les jours.
Les impôts.
Ouais, mais bon, voilà, tu vois, c'est exactement
c'est
ça.
C'est dur, hein.
C'est archi drôle. Donc,
la 7 ans et demi.
Là aussi, tu ressens cette barrière, tu vois, cette séparation. Et petite anecdote, il y a un petit qui venait, quand j'étais animateur, il y avait un petit qui était fraîchement arrivé, de Guinée.
Ouais.
Et en fait, on a dû lui expliquer qu'il devait rester avec sa classe. Et lui, il ne comprenait pas.
Il voulait aller dans la classe des maîtresses et des maîtres.
Non, même pas. mais lui, il voulait à tout prix rester avec les CM2. Et lui, c'était un CP. Et du coup, lors de la récréation, impossible de lui expliquer qu'il y avait une séparation. Lui, il allait avec les CM2. Et les CM2, il l'avait intégré.
Adopté.
Et sans mentir, et c'était un élément moteur.
Ça l'est motivé.
C'était délégué de la classe.
C'était un élément moteur.
C'était délégué.
Mais clairement, tu vois, et lui, il a l'énergie. Bon, les gars, là, on va jouer. Et ils disent, ouais, on va jouer. Et j'ai dit, ah ouais, en fait, en réalité.
Il était pas en CP.
Les barrières, en fait, c'est nous qui nous les mettons, tu vois. Ouais. Et je me dis, il y a ça qui manque. Mais aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a. Effectivement, j'ai rencontré des gens récemment qui ont envie de remettre à cœur ce côté diaspora, ce côté transgénérationnel. Mm-hmm. Et je me dis que c'est possible. La seule différence, c'est que nous, on doit casser nos limites. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de limites. Il y a aussi beaucoup de traumatismes. Tu les as très bien évoqués, Noé, tout à l'heure. Donc, si ça se fait moins aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des traumatismes sur certaines gestions qui ont été faites. Il y a aussi le coût de la vie, on ne va pas se mentir. En France, lorsque le coût de la vie augmente, du coup, ça refroidit les envies de faire des événements parce qu'on se dit qu'il faut mettre des billets, etc. Ouais. C'est compliqué. Et puis aussi, aujourd'hui, on va dire que nos parents ont des mots M-A-U-X.
Oh.
Voilà. Donc, du coup, qui font que parfois il y a ce recroquevillement, on se recroqueville sur nous-mêmes, on essaie de se.
Eux-mêmes, ils ont vécu finalement.
Voilà. Et là, aujourd'hui, ben, effectivement, on a des nouvelles informations, on a de la pédagogie, on parle de santé mentale, on a accès à des psys, etc. On se dit, OK, là, aujourd'hui, on peut se soigner collectivement et se dire que, ouais, ben, on peut faire en sorte de refaire ce qu'ont fait nos anciens et pas de refaire, de faire mieux. Donc, effectivement, je dis, peut-être qu'avant, c'était mieux. Mais aujourd'hui, on veut faire mieux et on fera mieux.
Oh.
Inch'Allah.
Wow.
Là, il faut applaudir.
C'est
une
phrase de conclusion, ça. Incroyable, merci. Merci pour ça, merci. Waouh.
Franchement.
Pour le coup, j'en apprends. Hein. C'est une richesse d'être sur ce plateau. Hein.
Ouais, j'aime
pour
bien.
Ceux qui écoutent, j'espère que vous prenez des notes. Parce que waouh, c'est un régal.
Franchement, je me permets vite fait de rebondir. Je pense que si aujourd'hui, on organise peut-être moins que nos anciens, il y a peut-être deux choses. Il y a la volonté de partir de beaucoup d'entre nous.
Ouais.
Ce qui fait que tu ne construis pas si tu vas partir. Mmh. Ça, c'est une réalité. Mmh. Et je pense aussi qu'on a tous ce sentiment d'illégitimité par rapport à notre identité. Là où nos parents, ben, la majorité, ils sont au bled. Donc, facto, ils peuvent se revendiquer.
Si je peux juste carrément appuyer ton point, la difficulté, c'est que non seulement il y a un problème de se rendre légitime, mais aussi parfois, ceux du bled tentent de leur
de
rappeler.
Te discréditer.
J'arrivais. En fait, le truc, c'est que tu as un premier sentiment d'illégitimité parce que tu n'es peut-être pas forcément né au bled, peut-être que tu ne parles pas la langue, peut-être que tu ne connais pas tous les us et coutumes. Ça, c'est un fait. Et donc, ça n'incombe qu'à toi. Et le problème, c'est que certaines personnes extérieures, elles vont en fait se permettre de fragiliser cette pensée-là de « est-ce que je suis assez africain ? Est-ce que je suis assez caribéen ?» etc. En fait, ça va être très, très difficile et ça demande énormément de confiance en soi que de rembarrer les gens. Moi, je sais que moi, je suis née en Tunisie, je suis arrivée, j'avais un an et je parle très, très bien tunisien. Mais on a toujours voulu un petit peu me discréditer en me disant « Ouais, mais toi, t'as un accent. Ouais, mais quand tu parles, t'as un petit accent français. » Alors que, en fait, clairement, pas du tout. Et jusqu'à une de mes cousines, en fait, elle a voulu se moquer de moi en utilisant les propos d'une autre personne qui n'était pas moi. En me disant « Oui, mais toi, tu prononces mal. » C'était pas le cas. Je dis « Oui, mais ok, je prononce mal, mais est-ce que toi tu parles français ? Parce que tu veux critiquer mon tunisien, ben on va critiquer ton français. Et finalement, en fait, c'est cette force de pouvoir rembarrer les gens et leur dire, écoutez, ces petites guéguerres là, moi j'ai pas le temps pour ça. Moi je suis là pour construire, je suis là pour faire d'autres choses. Mais ça demande énormément de confiance en soi. Moi,
je sais que ça crée des complexes de fou. Hein. Je sais qu'il y en a qui osent plus parler leur langue maternelle,
bien entendu,
la langue du pays. Parce que tout le monde se fout de leur gueule dès qu'ils ouvrent leur bouche.
Excuse-moi, ça m'est arrivé.
Il suffit qu'ils fassent une faute et ça les suit toute leur vie.
Ça m'est arrivé et je voulais d'en parler. Je sais que moi, j'ai mis énormément des années à parler créole. Même encore aujourd'hui, j'ai des difficultés parce qu'on se moquait de moi. Et c'est que récemment, on a expliqué à mes parents, en fait, vous savez qu'en fait, s'ils ne parlent pas, c'est parce que vous rigoliez.
C'est terrible.
Et là, ils se sont dit, ah, mais nous, on faisait ça pour... Ouais.
Pourquoi ?
Mais tu fais ça. Mais encore une fois, tu t'adresses à un enfant qui vit en France et qui essaye de s'intégrer, qui a ses insécurités, qui essaye de s'intégrer à un groupe. Et tu rigoles, bah, au final, t'as la flemme, tu te dis, bah, j'ai juste resté avec mes potes,
exactement.
On parle tous la même langue et on va pas
rire.
On
ne prend pas
la tête.
Après, moi, je pense que si je parle aussi bien arabe, clairement, je le dois à une de mes maîtresses de maternelle que je remercie très chaleureusement. Parce que j'avais 4 ans et en fait, elle avait expliqué à mes parents que moi, le français, j'allais l'apprendre à l'école. C'était pas un souci. Par contre, ma langue maternelle, si je voulais l'apprendre, c'était maintenant et à la maison. Donc mes parents, ils avaient mis en place un système où dès que je rentrais à la maison, je devais parler que tunisien. Au tout début, c'était très difficile parce que bah, toute la journée, tu as une langue et après le soir, il faut que tu switches sur une autre langue. Sur le long terme, ça a porté ses fruits. Et je sais que mes sœurs, elles n'ont pas eu le même système, donc elles ont mis plus de temps à apprendre le tunisien. Et par rapport à ce que tu disais, Benoît, moi, je sais qu'il y a une de mes sœurs, bah, y a pas mal de personnes qui se moquaient d'elle. Et elle a décidé de ne parler tunisien qu'avec les personnes qui ne se moquent pas d'elle. Et aujourd'hui, en fait, elle parle parfaitement tunisien.
Ouais, bien sûr.
Et elle a pu avoir cette confiance en elle parce qu'elle avait eu justement une confidente. Et nous, on rentrait tous les étés en Tunisie, donc c'était assez simple. Donc voilà, tous les étés, elle parlait tunisien pendant 2 mois. Et après ça, elle revenait et elle perdait finalement très, très peu. Donc je trouve que, tu vois, ça aussi, le fait de ne pas se sentir légitime, tu te dis, mais attends, moi, je ne parle pas très, très bien ou je ne connais pas très, très bien mes cultures. Ce n'est pas à moi d'organiser. Même si je trouve que les nouvelles générations, on est un petit peu plus culottés et on se dit, bah, en fait, si ce n'est pas moi qui le fais, personne ne va le faire. Oui, et au pire, j'aurais essayé. Si quelqu'un veut me critiquer, bah, lui, il n'a pas essayé de le faire. Donc, il n'a pas de légitimité à me critiquer. Ouais. Donc,
Non, mais vraiment, je comprends.
On est bon ?
C'est fou parce que, tu sais, je disais au début que le thème et tout, voilà, il est riche et que je ne pouvais pas tout comprendre. Mais
en fait, tu comprends tout.
Je comprends tout, ça me tue. Genre,
en fait, il y a tellement de choses à dire qu'on est obligé de rester en surface parce que ça questionne d'autres aspects aussi de ce truc-là.
Ah, c'est fou.
On va aller loin encore.
Exactement.
On va aller loin, c'est pas fini. Hein.
Okay.
4 heures d'émission aujourd'hui. Merci franchement, Wafa et Noé, de nous accorder ce temps. Alors, on commence par.
Premièrement, grand 1, petit 1.
En parlant de format, j'aurais pu le dire dans l'intro, mais effectivement, maintenant, on a un format plus grand puisque c'est 1h30 maintenant aujourd'hui.
Oui.
Vous nous écoutez pendant 1h30.
On pourra pas.
Sinon, on aurait dû tout oublier dans 10 minutes.
Clairement, là, il
nous
reste
plus de liberté. Ça nous rend plus smooth et ça rend même l'émission plus agréable au final.
On peut le dire.
Ah, c'est 1h30 dès aujourd'hui.
Oui, okay. mais
parce que moi je dois partir, j'ai piscine.
Bonsoir à ceux qui nous rejoignent.
C'est pas possible.
Ah, il est chaud.
Donc, pour transitionner, on va faire deuxième partie de questions. Cette fois-ci, pas QCM, juste questions.
Ouais.
Ça va être diaspora à l'international.
C'est parti.
Et de tout temps. Première question. Quelle est la première diaspora au monde et à peu près le siècle? Est-ce que vous pouvez situer la première diaspora au monde
La plus grande.
Premier gros déplacement
gros déplacement
dans l'histoire.
Ouais. Dans l'histoire.
À votre avis.
De comme population ça, là, de tête. Qui va s'organiser à l'étranger.
Allez-y.
Moi, de
alors,
tête.
Excuse-moi,
de tête.
En continent, pays.
Pays.
Ah, en pays.
Ou sinon, tu peux me dire
en dynastie, là.
Clairement. Alors, moi,
j'allais répondre.
Oui, Todd Fire, parce qu'il connaît la réponse, hein, c'est tout.
Non, mais je t'assure que même sans le truc, en vrai... Allez-y. Allez-y.
Bah, moi,
je vous jure qu'elle est grave évidente.
En fait, en termes de nation,
ouais.
Elle est grave évidente.
Moi, franchement, je dirais la diaspora juive.
Ah non.
Ah non, pas du tout. T'as tout perdu. Ouais, s'il te plaît. Bah,
oui, pour moi, c'est logique.
En fait, j'ai pas compris la question.
Mais à l'international, c'est-à-dire que alors, en fait, là, tu vas au Canada,
attends,
à ton avis.
Attends, non, je me permets. En fait, là, on parle vraiment de.
L'international.
Non, on parle de citoyenneté. On parle pas d'appartenance religieuse ou ethnique.
Ah, parce que toi, tu pensais à quand avec Moïse, ils sont partis.
c'est pas ça. Non, mais même pas.
En fait,
franchement, moi, si je dirais ma vraie pensée, je dirais c'est la diaspora africaine, parce que les Africains. Enfin, les déplacements de population. En fait, je comprends pas la question.
Je pense que tu la comprends pas, mais quand tu vas voir la réponse, tu vas tout comprendre.
C'est sûr.
C'est sûr et certain.
En fait, quelle est la première diaspora? Donc, c'est une organisation, c'est une population qui quitte son pays pour un autre pays et qui va s'organiser dans ce nouveau pays.
T'as capté?
La première au monde.
Les colons?
Non, avant.
Là, les gars, moi, je comprends pas. Vous savez, c'est enfoui en vous. C'est là,
c'est les blancs. Si, parce que
allez, Jeremiah.
Le mongol, la dynastie mongole.
Avant
encore.
Avant.
Adam et Ève quand ils sont arrivés sur Terre.
Pour moi, c'est les populations africaines quoi. Ils ont commencé parce que l'humanité commence en Afrique, donc du coup, elle commence à se disperser en diaspora à partir de là. Je comprends pas.
T'es allé trop loin.
Oui, je sais que j'allais trop loin. C'est pour ça que je comprends pas la question.
Vas-y, Noé.
Donne la réponse.
Grec.
Je suis pas d'accord.
Il a le seum.
Je le savais. T'allais dire ça.
La première diaspora au monde, c'est les diasporas grecques de l'Antiquité.
Bah ouais, les gars.
Non.
Bah si.
Milieu du 11e siècle avant Jésus-Christ.
Je suis pas d'accord.
Vous avez tous étudié la mythologie dans votre vie.
Bah oui, mais au-delà de la mythologie, c'est pas les premiers hommes, enfin c'est pas les premiers sur Terre, c'est pas les premiers à avoir une histoire.
Ouais, c'est clair. Et dans mythologie, il y a mytho, mec, donc je pense qu'il y a des gros. Et il se trouve en face de moi.
Ah, il est chaud.
Non, alors, nous, c'est vraiment sur l'aspect de source.
Ok, ouais. D'accord.
Nous, on a...
Il fallait préciser source.
Oulala.
Il fallait préciser source.
Oui, parce que sinon, à ce moment-là, la biblologie, ça peut être une source.
Bah oui, c'est, voilà,
bah oui, c'est évident.
Source,
c'est...
bah oui, grec.
Là, on remonte à très, très longtemps.
11e siècle avant Jésus-Christ.
Ah oui,
hein.
Ça date. Les gars, ça date.
C'est bien avant les Mongols.
Bah oui, c'est pour ça.
Ça date de ouf.
C'est de ouf, en vrai.
Ça date de ouf, tu vois.
La question était mal posée.
Donc les Grecs ils vont s'installer en fait en Asie mineure, ce qu'on appelle l'Asie mineure, et notamment Chypre. Puis après ils vont aller s'installer en Italie un petit peu plus tard, au 8e siècle.
Moi je tiens juste à dire que les civilisations égyptiennes étaient beaucoup plus anciennes que les civilisations grecques.
Elles se sont installées où
grecques.
Elles se sont
Attends,
installées
désolé,
en Égypte.
Désolé. Non. Voilà, elles ont commencé en Nubie, elles sont allées en Égypte. Ensuite,
c'était pas l'Égypte, ça n'existait pas l'Égypte à ce moment-là.
Mais bien sûr que si.
C'était le territoire du Maltrifio Comista.
On arrête là.
Les pharaons, c'est quel territoire? C'est quel royaume?
On se calme.
J'en ai marre des gens qui remixent l'histoire.
Non, je sais pas pourquoi les Grecs, vous les aimez pas comme ça.
Non, on les aime. J'y étais il y a 3 semaines.
On n'aime pas les...
Voilà.
Donc, deuxième question. Noé, je t'écoute pour la deuxième question, s'il te plaît.
La deuxième question, c'est quelle est la plus grande diaspora en Europe? Voilà. Ah, c'est un peu dur celle-là. J'avoue que.
Diaspora non européenne?
Non, européenne.
Européenne.
Attends, j'ai pas compris.
En Europe.
La plus grande diaspora en Europe.
La plus grande diaspora en Europe. Mais qui est.
Pas européenne
elle
du coup.
Elle est européenne.
Elle est européenne.
Elle est à 100% donc, européenne.
Elle est à 100%.
Moitié européenne, moitié asiatique.
Non, elle est à 100%.
Donc en gros, c'est un pays d'Europe qui s'est exporté et qui forme une grosse communauté en Europe.
Oui, voilà.
C'est ça. Okay.
C'est un pays.
Et franchement, ça, c'est l'histoire qui est assez récente. Normalement, si vous avez vos cours de 3e en tête, il s'est passé des trucs il n'y a pas longtemps en Europe qui va justifier.
Oui.
Jésus-Christ.
Non, pas aussi récent. Mais c'est.
Attends, donne-nous un indice. Donne-nous un indice.
Non.
Monsieur.
Bah, les
pays. Hein.
Oula,
pays, hein.
Oula, qu'est-ce que t'allais dire?
Moi, sans te mentir, j'ai pensé aux Roumains ou aux Slaves.
Elle a débordé.
Donc, Ad, est-ce que tu as une idée un petit peu en tête?
Tu m'as déboussolé.
Je sais.
Un indice. Parce que pour moi, j'ai les populations slaves, roumaines, juives. Non, pas.
Le dessert.
Voilà, on a failli attendre. Donc, ça déborde. En 2022, c'est l'Allemagne qui est le premier pays de départ à 20%.
What?
Eh oui.
Ils se barrent de chez eux.
Ils vont où?
Exactement.
Pour aller où
vont-ils? Est-ce que c'est les Allemands?
Oui, c'est les Allemands.
Ou est-ce que c'est les Turcs devenus allemands qui repartent?
Alors, c'est raciste.
C'est absolument pas raciste, je demande.
Non, c'est les Allemands. En fait, ils ont nationalité allemande, donc à partir de là, il n'y a pas de...
Donc, ils vont aller parler allemand ailleurs.
Exactement.
Où ça?
Alors, déjà...
En Norvège?
Sans doute. Je sais pas, ils parlent avec des poissons.
Et les Autrichiens, ils parlent plus un peu allemand, je pense.
Je sais pas.
L'Autrichien, ça existe comme langue.
Donc,
à la régie, on peut me dire si l'Autrichien, ça existe comme langue.
Non, alors.
Il y a personne à la régie. Il y a plus personne.
Donc, que je vous explique un petit peu. Donc, vous avez l'Allemagne à 20% de départ.
Voilà.
Après ça, on a l'Espagne 19% de départ. Okay. Je pense que les Espagnols, on sait où ce qu'ils vont, hein, l'Amérique latine.
Ouais.
Et après ça, il y a la France quand même avec 9% de départ.
Voilà.
La francophonie, bonjour.
Voilà.
Wow. Okay.
Donc, c'est vrai que c'était pas du tout évident.
C'est vrai.
Absolument pas.
Après, moteur allemand, mentalité allemande. C'est ça aussi qu'il faut se dire.
Donc, qualité de fabrication supérieure aux autres. Enfin, non.
Bah, allez.
Non.
Donc alors, non, les Allemands, les l'Espagne.
Ils sont forts. Ils sont
très très forts.
Yes. Yes.
Ils font des.
Ok.
Mercedes.
Et donc, du coup, il y a
plus le temps passe.
Stop. Arrêtez.
Qu'est-ce qu'il y a?
Ça peut déborder très vite.
Je sais. Donc la prochaine question.
C'est pire en pire, les questions. Je peux vous dire.
La prochaine question, écoutez un petit peu. Quel est, d'après vous, le top 3 des diasporas dans le monde?
Let's go.
Genre, les gens.
Arménienne?
Non.
Italienne?
Non. En termes de nombre de population.
Italienne,
non?
Non.
Attends.
Ah bon?
Non.
Dans le monde, genre.
Dans le monde.
Une grosse population qui s'est déplacée.
Exactement.
Yeah. Liban, j'ai envie de dire.
Non.
Chinois.
Non, ils sont pas beaucoup, les Libanais.
Ouais. Ils sont partout.
Oui. Mais ils sont pas beaucoup.
C'est pas beaucoup.
Mais attends, excuse-moi, j'ai une question.
Oui.
En fait, l'Argentine, c'est quasiment des Italiens, en fait, les Argentins. Ça compte pas?
Non.
Ok. Diaspora africaine, du coup?
Non.
L'Afrique n'est pas un pays.
Un continent, c'est, on n'a pas le droit.
C'est même pas ça. C'est qu'il n'y a aucun pays d'Afrique qui fait partie du top 5.
Ok.
Des top
5.
3.
C'est un top 5 ou un top 3?
Non, top 3. Mais là, j'ai le top 5 sous les yeux.
Ouais, voilà, c'est Chine.
Indienne, c'est le top 1. Donc, on est quand même à 17,9 millions de personnes.
Incroyable.
Exactement. Donc, Inde, après ça, on va voir quoi d'autre? Pensez grand pays.
J'avoue,
la Chine,
j'avoue.
Chine, c'est numéro 4. Hein.
Ouais. Russie,
Chine, c'est numéro
4. Ah, Russe, on n'a pas y attendre. Russie, il y a 10,8 millions de Russes qui se barrent de la Russie. Sans doute en Ukraine. D'autres questions?
Tac, hein? On enchaîne.
Ah oui, ils sont en Europe de l'Est, c'était pas une blague.
Ex-URSS.
Oui, c'est ça, ex-URSS. Et le top 2,
Il est
loin.
Il est dur.
Hein. Inde, c'est le premier.
Exactement.
Voilà.
On a Russie. Je peux vous donner un indice si vous voulez.
Non.
Si, il est grave smart. Pépito. Voilà.
Ah, et le Mexique?
Et le Mexique.
Ok.
Étonnant.
Le Mexique, non, il est à 11,2 millions.
Mais surtout, c'est aux États-Unis quasiment, non?
Exactement.
Ouais. Incroyable.
Ouais. Ça, c'est l'immigration aux États-Unis, j'imagine. Sont-ils plus nombreux aux States qu'au Mexique?
Non, alors là, tu me demandes beaucoup trop.
Non,
ils sont beaucoup plus au Mexique. Quand même, ils sont beaucoup plus au Mexique.
Je vois la régie là faire des trucs un peu.
Non, j'ai une vraie question.
Je suis d'accord, j'ai une petite remarque, il va falloir penser à faire.
Oui, moi aussi. En fait, j'ai une petite remarque. Parce que, à ce qui paraît, c'est vraiment, je ne sais pas, mais il y a certaines communautés qui sont plus nombreuses.
Les
Comores. Ce Comorien.
Mais ça, apparemment, c'est une légende. Comorien. Ça. J'en ai parlé avec un Comorien, il m'a dit non, c'est pas vrai.
De quoi?
Non, moi je pense qu'ils sont plus nombreux dans leur
Comores,
pays.
Genre,
mais c'est comme le Liban, il y en a beaucoup qui te disent qu'ils sont beaucoup plus à l'étranger
genre,
que.
Il y a plus de Comoriens à Marseille qu'un Comore, c'est ça?
Je
l'ai entendu, mais apparemment c'est pas vrai ça.
Bah, vous savez quoi? On va faire nos recherches et prochaine émission, on vous répondra à cette question-là. Donc, on a dit Inde, Mexique, Russie. Après ça, on va voir Chine, Syrie, Bangladesh, Pakistan et Ukraine. Ouais. Ukraine, elle arrive quand même à la fin. Et il n'y a vraiment aucun pays d'Afrique. Donc, c'est juste une des
grands commerçants.
On n'est pas si mal en Afrique avec du recul.
Clairement, on a toutes les richesses du monde.
Par contre, l'Afrique, c'est le continent le plus dépeuplé au monde.
Non, mais
oui, on s'en rend pas compte.
C'est pour ça que je disais ça.
On s'en rend pas compte.
C'est très bizarre que ce soit le plus dépeuplé, mais que ce soit pas quand même un des pays d'Afrique qui soit le plus exporté.
C'est pour ça, en fait. Mais c'est parce que je pense qu'en gros, la dépopulation s'est faite principalement pendant la période de l'esclavage, etc.
Exactement. Et même dû aux différentes guerres aussi.
C'est après que les nations sont apparues.
Exactement.
Sachant qu'on ne sert à jamais.
Mais pour moi, il y a plus de. Une grande dépopulation africaine.
Ouais. Mais ça date vraiment.
Ouais.
Ouais.
Alors, justement, on parle d'Afrique. Pour vous, à peu près, il y a combien d'Africains qui vivent, justement, ou de personnes d'origine africaine, qui vivent en dehors du continent? C'est à peu près combien le nombre de la diaspora africaine?
On parle d'un continent.
Je vous donne un indice, ça se compte en millions, voilà, comme
bah
ça.
Oui, c'était sûr.
Après, ça dépend si c'est comptabilisé, parce que moi, je comptabilise les populations africaines qui vivent du coup en Europe, mais celles aussi d'Amérique latine.
Attends. Lesquelles d'Amérique latine?
Moi, je prends les Caraïbes. Pour moi, ce sont des Afro-descendants.
Non. On ne parle pas d'Afro-descendants. On parle de personnes qui ont une nationalité africaine actuelle.
Bah, je dirais une vingtaine de millions.
Déjà, ça change tout.
Wow.
Non.
Il est gentil.
Pas 20 millions, non.
Plus. Sympa. Plus. Beaucoup plus.
Ouais,
plus.
Franchement, 50 millions. Oh. 200 millions.
Ah wow. Alors lui, c'est tout ou rien. Il en a fait trop.
Écoutez, écoute, en fait, faut... hey, moi, je suis chaud là, en fait. Là.
On l'a vu, on l'a vu. C'est tout ou rien avec toi. Wow. Ouais, c'est 200 millions de personnes, justement, ouais, qui vivent en dehors du continent. Donc ça représente quand même 25% de la population mondiale.
Vous voyez, quand on vous parle de. Non, je...
Et après, il faut pas oublier en fait que grâce à elle, justement, il va avoir de l'innovation, de l'engagement communautaire. Il va avoir aussi de nouvelles connaissances par rapport aux différentes diasporas et qui vont finalement, en fait, toute cette diaspora là et son organisation, elle va permettre finalement à redynamiser d'une certaine manière finalement le continent. Mm. Et ça va créer finalement de nouvelles opportunités, tout simplement, à même le continent, quoi. Mmh. Dernière question avant de donner la parole à notre très cher Jay. D'après vous, quelles sont les causes de la diaspora africaine? Là, on est un petit peu plus centré.
Les causes
de la diaspora.
Bah, il y en a, elles sont multiples.
Colonisation, guerre.
Pour moi, c'est
ça. Crise économique,
famine,
guerre.
Quoi d'autre?
Instabilité politique. Hein.
Ouais. Mais en fait, moi, je vous parle de la diaspora. Vous vous parlez de pourquoi est-ce qu'ils sont partis. Moi, ouais, je vous parle de l'organisation.
Ah non, t'as dit quelle cause ?
Quelles sont les causes de la diaspora ?
Ça veut dire quoi ?
Pour moi, c'est dire quoi, les causes ?
Ça veut dire
quoi ? Pour moi, les causes, c'est les origines. C'est pourquoi ils partent.
Ouais, moi, j'ai entendu quoi aussi.
Ouais. Mais pas que...
Pourquoi ils s'organisent ?
Réexplique ta question. Ouais, ta question, c'est pourquoi ils s'organisent. Ils ont besoin de s'organiser ici ?
Oui.
C'est ça.
Parce que clairement le départ du continent, il s'est pas fait par choix, c'est-à-dire que c'est pas je pense qu'il y a un besoin de se retrouver entre Africains déjà.
Ouais, c'est besoin de rapprochement culturel.
C'est besoin de rapprochement culturel. Il y a un besoin de se retrouver entre eux, de pas perdre ses racines et aussi besoin de s'organiser pour repartir, pour retourner.
Et puis d'avoir un environnement sécurisé.
Protégé, enfin,
protégé.
Exact. Donc là, c'est vraiment une volonté justement de se réorganiser entre soi. Et ça va être vraiment sur l'aspect culturel qu'on va retrouver justement cette nécessité en fait d'organisation de la diaspora. C'est culturel et économique.
Ok.
Maintenant, on va tous se tourner vers toi, Jay.
Mon tour.
Est-ce que pour toi, l'organisation de la diaspora, c'était mieux avant?
Alors, déjà, encore une fois, bonsoir. Il est 11h du matin.
Oui.
Yes.
Alors, moi, je vais être un intrus. Là. Je suis venu pour faire chier. Voilà.
Ok. En fait, c'est dit.
Voilà. Je ne sais pas si on a le droit de dire des gros mots. À la régie, on me confirme, on a le droit de dire des gros mots. Yes.
Non,
ok.
On n'a pas le droit. D'accord. On n'a pas le droit. Et même nous, on te le dit.
Parce qu'on n'a jamais le droit avec quoi.
Bah oui, on n'a jamais le droit.
Alors, non, en fait, du coup, moi, je ne suis pas non plus un historien. Et en fait, en tant que Français blanc. Je vais donner mon point de vue, mais je ne sais pas si je suis légitime pour dire si c'était mieux avant ou pas. Il aura fallu que j'étudie la question pendant à peu près 3 ans et demi, ce temps que je n'ai pas, parce que je suis en recherche d'emploi, encore une fois. Donc si quelqu'un recherche un monteur et qui écoute, il faut envoyer un mail ou vous passer par WAFA.
Ouais, directement.
Bon, n'hésitez pas.
Alors, du coup, en tant que Français blanc, moi, je vais parler de ce que je connais. Donc moi, je viens de Normandie et chez moi, en fait, il y a un quartier où il y a plein de Turcs. Okay. Et
Turcs, en fait,
ouais, beaucoup de Cambodgiens aussi. Bon, moi, je vais...
Cambodge.
Je suis issu d'une ville de campagne, mais où il y a quand même beaucoup de richesses multiculturelles. C'est un peu comme la Courneuve, mais tout petit et entouré de campagne.
D'accord.
Okay.
La ville s'appelle Val-d'Oreuil. C'est une des villes nouvelles qui a été créée dans les années 70. Donc moi, j'ai eu de la chance de vivre un peu comme un banlieusard, mais très loin de Paris.
Okay.
Enfin, très loin, 1h30, quoi. Ce qui est assez loin, finalement.
Oui.
Et du coup, en fait, voilà, chez moi, dans mon quartier, il y a pas mal de Turcs. Et ce que j'ai remarqué chez eux, c'est que, en fait, ils bossent souvent entre eux et souvent, ils sont dans le bâtiment. Comme c'est le cas dans beaucoup de communautés, finalement, en vrai, comme les Latinos qui partent aux States, il y en a beaucoup qui travaillent dans la construction, etc. Et en fait.
J'allais revenir en plus.
Il y a plein de choses à dire sur ça, mais souvent c'est les tafs de nécessité qui embauchent le plus, sachant qu'à l'époque les chantiers, en tout cas en France, ça payait pas mal en vrai, vu le labeur que c'est en même temps, heureusement. Ouais, bien sûr. Mais du coup, l'organisation des Turcs, moi ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit, en fait, ils bossent souvent entre eux, ils étaient au lycée avec nous, mais en fait, ils ont fait leurs études, mais direct après, ils partent travailler avec leurs frères ou leurs cousins qui ont leur boîte. Et une fois qu'il y a une boîte qui ferme, il y en a une autre qui s'ouvre parce que chacun fait son activité, etc. Ils se mettent à leur compte. À 25-30 ans, ils ont tous leur maison avec leurs enfants et ils suivent tous le même schéma. Alors, je ne sais pas s'ils sont heureux ou pas, mais en tout cas, ça a l'air efficace. ils bossent ensemble, ils vont chercher leur voiture souvent en Allemagne, ils roulent en berline et tout. Bref, moi je valide ça, de mon point de vue de français lambda, moi ça me donne envie de faire pareil, de me dire bah moi je vais m'organiser avec ma famille. Bref, je trouve ça inspirant en fait. Et du coup, voilà, moi qui fais partie d'une population, donc du coup on va dire française de base, dont je pense les familles périclites pour beaucoup, les familles françaises blanches, enfin je trouve que comme on n'a pas la même histoire, il n'y a pas besoin de se rapprocher, donc nous on s'éloigne justement les uns des autres. En tout cas, c'est le cas pour beaucoup, surtout quand il y a les anciens qui meurent, les grands-pères, etc. Les gens se séparent, s'éparpillent un peu, il n'y a pas le
lien de socle commun.
Ouais, voilà, avec le patriarche, tu vois, qui...
Il n'y a pas cette nécessité finalement de se regrouper.
Ouais, en fait, voilà, parce que pour plein de raisons en fait, sauf pour les certaines familles chrétiennes, dont certaines familles peuvent être nombreuses. Alors là, ils font des cousinades et tout, etc. Ouais. Mais c'est pas la majorité, quoi, je pense.
Ou l'héritage. L'héritage, à mon avis, ça fait revenir.
Bien sûr. Ou ça divise encore plus.
Et ça divise encore plus.
Moi, l'héritage, ouais, c'est ça.
Selon les tout le monde se rassemble à un moment, quand même, à un moment donné, tu vois.
Oui, ensemble.
Ils sont obligés au tribunal. Au tribunal. Voilà comment on se rassemble chez nous. Okay. J'aime mon pays. Mais c'est ça. Bon, après, c'est la société aussi individualiste qui veut ça, quoi. Ouais. Mais pour avoir été en Arménie, du coup, pour parler d'une communauté qui est proche, parce que l'Arménie et la Turquie, c'est à côté, même si malheureusement, il y a des conflits. Mais pour avoir été en Arménie avec ma main B qui est autour de cette table, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et dès que je l'ai vu, j'ai su en fait que c'était lui.
C'est moi.
C'était moi. Le Benoît originel.
Excusez-nous.
Mais du coup, voilà, pour avoir vu comment ils s'organisaient, que ce soit là-bas ou en France, parce qu'on a aussi une bonne communauté arménienne en France, que ce soit à Marseille ou à Paris, notamment Maison Alfort, etc., où la communauté arménienne se rassemble, on sent qu'il y a une volonté de redresser le pays, puisque le pays a connu un génocide, a connu des destructions énormes, et puis a connu une situation très dramatique. Et non seulement en Arménie, voilà, ils se regroupent, mais voilà, comme je l'ai dit, à Marseille, même à Los Angeles, il y a beaucoup d'Arméniens aussi là-bas. Il y a un vrai sentiment de revanche nationale, et ça, on peut le ressentir, même si on parle à des Arméniens, on va le comprendre direct. Et c'est ce que je comprends évidemment et que je valide, et c'est ce qui me fait encore plus douter de mon pays quand je vois que nous, on n'a pas forcément ce sentiment d'être ensemble, etc. Ou alors, c'est quand il y a des manifs, etc. Il est quand même là, mais en tout cas, c'est pas unanime, quoi. Voilà. Et dans d'autres pays aussi, c'est pas unanime. Hein. Mais en tout cas, là, on parle des diasporas. Et moi, c'est ce que je remarque, la différence entre mon pays, qui est la France, et les descendants, enfin, les immigrés ou les gens qui sont issus de diaspora, ont comme sentiment. C'est vraiment la différence que je vois. Et la diaspora, on a expliqué la définition tout à l'heure. C'est un mot parmi d'autres, parce que pour parler de regroupement de population, en français il y a plein de termes, groupement, groupe ethnique, communauté, diaspora, il y a plein de termes. Mais pour les blancs, par exemple les français qui s'expatrient au Sénégal, on ne dit pas que c'est une diaspora. Est-ce qu'on peut dire que c'est une diaspora? Ce que je me demandais en vrai.
Bah si, en fait,
oui.
Bah, si.
Diaspora française. On peut dire que c'est une diaspora. Okay. Mais bon, on dit plutôt expat en général.
Alors qu'ils sont juste des immigrés.
Voilà. Ouais. Mais voilà, on n'a pas les mêmes valeurs selon certaines personnes, visiblement. Et c'est ce qui est dommage, mais voilà, en tout cas, les diasporas, moi, je vais parler de ce que je connais encore une fois. Je suis en contact avec pas mal de Japonais, je travaille avec eux, etc. Et eux, par exemple, leur rapprochement communautaire, de ce que je peux voir en tant que témoin, parce que moi, autour de cette table, je ne suis qu'un témoin, je pense. Les Japonais, ils ont un rapprochement communautaire qui est plus, on va dire, de confort, je pense. Alors que la communauté noire ou arabe, c'est plus une question de survie, de rapprochement nécessaire, voilà, comme on l'a dit. Les Japonais qui vivent en France, ils fuient pas la guerre, etc. On va dire, je pense, de mon point de vue, ils fuient peut-être la rigidité de leur système. Et donc c'est presque une exode finalement, mais évidemment beaucoup moins violente que ce que peuvent connaître les autres populations, notamment en Afrique évidemment. Donc voilà, après je vais pas dire encore une fois si c'est bien ou enfin si c'est mieux avant ou maintenant, mais je pense que le problème, comme on l'a dit avant, c'est que c'est la dépendance que les diasporas peuvent avoir d'autrui, voilà, notamment dépendre de la France, etc., puisque là on parle de ce qu'on connaît. Alors qu'il y a des pays qui ont voulu être autosuffisants, évidemment je pense au Burkina Faso avec Thomas Sankara. Malheureusement, l'histoire nous a prouvé que même quand on a des bonnes volontés, on peut se faire couper l'herbe sous le pied. Plus que ça même. Et du coup, c'est triste de voir que quand même les autres s'organisent, certaines instances françaises notamment, en tout cas là en l'occurrence, bloquent. C'est aussi le principe de protectorat, et je parle même pas du franc CFA, quoi. Donc, alors que nous, les Français ne parlent. Je prends mon, encore une fois l'exemple de ce que je connais. Nous, en tant que Français, bon, moi en tant que Français blanc, moi je parle qu'une langue. Enfin, je veux dire, à la base, on parle qu'une langue en France. Contrairement à des Africains qui parlent cinq langues d'entrée
de
jeu.
Officielle, ouais.
Voilà. Ils arrivent. Ils arrivent ici.
Bah, direct.
Direct, ils sont médecins quand ils arrivent ici. Enfin.
Alors, ils sont médecins chez eux et quand ils arrivent ici, ça ne vaut plus rien.
Ils font le ménage, voilà.
Bien sûr.
C'est ça.
La plupart.
Bien sûr.
Et boueurs aussi.
Techniciens.
C'est clair. Bah, parce que les, certains Français ne veulent pas le faire. Donc.
Alors qu'en Afrique, c'est. Enfin, bon, voilà.
Ouais. Ouais, non, mais oui, non, je vois ce que tu veux
dire.
Ça fait
mal.
Et donc,
bah, bien sûr. Non, mais,
bah oui,
non, mais c'est clair.
Ça fait très mal.
Mais c'est sûr que nous, si on inverse les choses.
Ouais.
Et
c'est pas juste.
Et que, ouais, oui, déjà. Déjà. J'allais le dire en plus. Mais naturellement. Mais nous, on serait perdus. Je veux dire, si nous, on parle qu'une langue. Je veux dire, on serait perdus en fait si on faisait la même chose.
Clairement.
Mais on ferait aussi comme ceux qui se sont retrouvés ici, c'est-à-dire que on se regrouperait comme le font les Français au Sénégal, par exemple, sauf que eux sont considérés comme expats et sont riches par rapport aux autres et l'entretiennent.
La devise.
Malheureusement. Donc voilà, moi je vais finir par citer deux anecdotes. Mm-hmm. On parlait des tontines tout à l'heure. Alors moi j'étais au Kenya, j'ai eu la chance de faire deux documentaires là-bas.
Incroyable.
Je vous invite à contacter l'équipe de 7ème avant si vous voulez les voir en vrai.
On les mettra en story.
N'hésitez pas.
Yes, j'ai fait un documentaire vite fait pour décrire. J'ai fait un documentaire dans le bidonville de Kibera, qui est un des plus grands bidonvilles d'Afrique. C'est le premier bidonville d'Afrique de l'Est.
Okay.
Et j'ai fait un documentaire là-bas sur la vie et les gens, comment s'organisent du coup les gens, puisqu'on est dans l'organisation, au sein de ce bidonville. Donc quand on dit bidonville, on dit ouais, la pauvreté et tout, les tentes machin, mais t'as des bouchers, t'as même des cinémas,
en fait,
t'as des boîtes de nuit,
vivent, quoi, donc,
c'est une ville,
en fait. Sociale,
c'est une ville énorme en plus. Et l'histoire du bidonville, elle est trop intéressante. La communauté qui est de base, qui était censée être là-bas et qui est restée, s'est vue ensuite mélangée avec d'autres communautés africaines et kenyanes. Ah, vrai, c'est super intéressant. Et j'ai fait un deuxième documentaire sur des femmes qui s'organisent dans la campagne kenyane.
Okay. Voilà.
Et là-bas aussi, ils font des tontines et ils appellent ça harambe. Mm-hmm. Et c'est la même chose. Donc là, en l'occurrence, dans mon documentaire, c'est les femmes. Puisque c'est les femmes qui font quasiment tout et du coup parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail en plus, etc. Donc elles se regroupent et c'est comme ça qu'elles arrivent à subsister à leurs besoins. Donc les tontines, c'est vital en fait pour les gens, que ce soit en Europe ou même en Afrique, la preuve, parce que les gens continuent à utiliser ce genre de système. Et je finirai par dire que voilà, la diaspora, on en a vu autour de cette table d'ailleurs, la preuve à London. Donc à Londres, il y a une grosse communauté caribéenne et je vais profiter pour dire une de mes meilleures expériences de ma life, le carnaval de Notting Hill. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Donc à tous ceux qui nous écoutent, si vous ne l'avez pas fait, il faut y aller. Voilà, c'était fin août, c'était il n'y a pas longtemps, encore une fois. Et il faisait beau cette année. Nous n'y sommes pas allés, mais ce n'est qu'à charge de revanche, comme on dit. On l'a fait deux fois avec mes collègues autour de cette table, en tout cas certains de mes collègues. Vraiment, je le recommande à tout le monde. Et surtout, je pense que c'est une belle preuve de ce que peut faire la diaspora ailleurs et comment les gens peuvent s'organiser. La communauté caribéenne est assez présente partout dans le monde. On n'en a pas assez parlé, parce qu'on n'a pas assez parlé de toutes les diasporas de toute manière.
Exact.
Mais c'est une belle preuve de voir comment les gens s'organisent et comment ils arrivent à faire un des plus grands festivals. Je crois que c'est le plus grand festival, le plus grand rassemblement de rue d'Europe. C'est le carnaval de Notting Hill, c'est à côté de chez nous, les gars. Et
faut profiter.
La fête, elle est massive. C'est un truc de ouf. Et c'est la commune.
La diaspora, c'est pas que sérieux et triste, les gars.
Voilà, c'est ça. C'est une belle preuve de ce qu'on peut faire aussi en termes de joie. Et Benoît parlait de la fête. La communauté caribéenne, la fête, ils savent la faire.
Ouais.
Et ils le donnent à tout le monde. Tout le monde vient. Il y a des gens de partout. Il y a des blancs, des noirs, des indiens. C'est extraordinaire. Et ça, c'est ça, la diaspora. C'est juste une infime partie de ce qu'on peut voir par rapport à ce que la diaspora fait.
C'est l'iceberg, en fait.
Voilà. Et donc, derrière, il y a encore des choses incroyables qui se passent, mais qu'on ne le sait pas forcément. Là, c'est juste ce qu'on voit. Voilà.
Ah, merci. Merci de nous avoir partagé autant d'informations. Wow. C'était très instructif, parce que là, on a quand même pu toucher un petit peu l'Asie, là où on n'en a pas vraiment parlé de notre côté. Alors, je pense qu'on va finaliser avec quelques questions.
Je pense qu'on finalise sur Ad aussi.
Ouais.
Ouais.
Je pose ma question. On fait directement Ad.
Enfin, comme tu veux.
Moi, je pense que ce serait bien que Ad.
Allez, tu sais quoi, vas-y. Ad. Allez, tu te lances et après ça.
Très bien.
On se regarde sur les questions.
Était-ce mieux avant? Pour moi, oui. Ouais. Ok. Je vais parler de ce que je connais et de ce que j'ai vécu principalement, donc de la communauté nord-africaine et plus particulièrement marocaine. Parce que pour moi, avant, c'était une nécessité, comme on l'a dit plusieurs fois pendant l'émission, c'était une nécessité d'être organisée en tant que diaspora, parce que c'était une question de survie. Mm-hmm. Survivre dans un nouveau monde, je parle de avant de la génération, comme tu as dit, première vague d'immigration. Survivre dans un nouveau monde, avec des nouveaux codes, une nouvelle langue. Avec, en prenant en compte la discrimination et le mépris de certains autochtones.
Ouais,
et
ouais.
Ça, je trouve que c'était déjà dingue, genre, d'arriver dans un pays où t'as pas forcément été à l'école. Et si t'as été à l'école, t'as pas appris la langue du pays. Mmh. T'arrives dans un pays, tu parles pas la langue et tu dois t'adapter, tu dois te nourrir, tu dois nourrir ta famille si t'en as une. Mmh. Tu dois faire de l'argent pour envoyer et nourrir ta famille au pays s'il faut.
Et à n'importe quel moment, on peut t'envoyer au bled en rafle.
C'est ça. Exactement. Et je pense que c'est une nécessité d'avoir cette solidarité et ce soutien. Je romantise peut-être un peu. Et je sais que je suis nostalgique d'un temps que je n'ai pas connu. Mais j'ai le sentiment qu'il y avait une certaine compassion des uns envers les autres à ce moment-là. Parce que les gens vivaient la même chose globalement.
Ouais, c'était la misère pour tout le monde.
Voilà, c'est ça. Il n'y avait personne qui s'était encore élevé socialement. Il n'y avait pas de... On était tous dans la merde et fallait qu'on s'entraide, sinon on allait crever. Et dans le sens où, ouais, se construire en terre inconnue, c'était en fait, au final, se trouver une famille loin de sa famille.
C'est ça.
Exactement.
Et je vous avoue que moi, quand j'écoute du rail, j'ai ce sentiment, genre, le rail, moi, ça me rend triste.
Oui.
Ça me rend triste.
Nostalgique d'une époque que t'as pas connue.
Ça me rend nostalgique, ça me rend triste. D'ailleurs, il y a une série de petits documentaires sur Arte, sur le rail, qui est hyper bien faite.
Ouais.
Et franchement, n'hésitez pas, c'est hyper intéressant de voir aussi ce que l'histoire de ces gens-là, qui ont immigré pour la plupart, a apporté même dans le monde artistique.
Ouais.
Je trouve ça hyper intéressant. Il y a aussi le truc qui revient souvent dans mon argumentaire, je sais c'était mieux avant ou pas. Là, on est dans l'entre-deux charnières du avant et maintenant, avec la révolution qui est Internet. Il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Viber.
C'est ça. Oh my God, Viber.
Il n'y avait pas.
Viber.
Avant, tu attendais genre 3-4 semaines avant de recevoir une lettre ou une cassette avec des messages, des voix de tes proches.
Ah, les cassettes. Quelle belle époque.
Du manque et de l'attente.
Quelle belle époque.
Ça veut dire que si quelqu'un de ta famille était malade ou si quelqu'un était décédé, tu l'apprenais 1-2 mois plus tard avec quelqu'un qui revenait de voyage ou quoi.
Ouais.
Et pour moi, c'est en ça aussi que c'est hyper nécessaire de se construire un cercle.
En vrai, Western Union, on n'en parle pas, mais c'est aussi...
Oui.
Mais parce que, mine de rien, Western Union, c'est récent. Enfin,
oui, c'est récent dans l'histoire.
Ça a révolutionné pas mal les choses aussi.
Parce que moi, je me rappelle de quand j'étais petite, je vais avoir 30 ans, quand j'étais petite, au début, il n'y avait pas les portables. Quand tu avais un portable, ça coûtait hyper cher déjà d'avoir un abonnement en France.
Ah ouais,
les cabines, tu avais les cartes téléphoniques et même ça, ça coûtait cher.
Ça
coûtait cher.
Je sais pas, si vous vous souvenez, mon daron me disait, mais prépare bien tes phrases. Hein. T'as 2 minutes, prépare bien tes phrases.
Et le taxiphone, et c'est vraiment le taxiphone, c'est ce que je veux dire. C'était rapide, clair, net et précis.
Excuse-nous, mais il y avait toutes les communautés dedans.
Vraiment un lieu où il y avait la queue devant les cabines téléphoniques. Est-ce que vous vous rappelez quand même?
Surtout pendant Ramadan, il y avait des périodes de queue comme ça.
Parce que pour le coup, vraiment, c'est un sujet tellement vaste qu'on ne peut pas
tout synthétiser.
On ne peut pas parler de tout.
Non,
j'ai choisi de ne pas parler de l'aspect de l'argent, même s'il est hyper important, et vraiment parler de l'aspect genre de soutien émotionnel, de nécessité. Pour moi, on n'est pas fait pour vivre tout seul, on est fait pour vivre en groupe.
Ouais.
Et pour moi, c'est hyper important d'avoir des gens qui nous ressemblent, qui nous comprennent, qui comprennent nos problématiques et qui vivent les mêmes que nous, parce que les comprendre, c'est quelque chose, mais les vivre aussi, c'est encore un autre aspect.
C'est vrai.
Après, je suis pas non plus manichéenne. J'ai l'impression que ce truc, il est encore un peu présent aujourd'hui, mais c'est présent d'une autre manière. Mais encore là, on a du boulot. Clairement, on a du boulot, parce que comme le disait Benoît tout à l'heure, les fondations ont été posées, et comme tu le disais très bien, il y a un travail qui a été fait qui apporte la flémardise.
Ouais.
Et qui fait qu'on se repose là-dessus et qu'on fait rien. Tout est facile aujourd'hui pour qu'on fasse.
Ouais.
Clairement,
tout
est facile.
Il faut juste la volonté.
Sur Internet, machin. C'est juste qu'on a la flemme.
Ouais.
Et en même temps, on a la flemme parce que la vie, elle est telle. Franchement, la vie,
elle est dure. Parce qu'on a du confort aujourd'hui.
Il y a du confort, mais la vie, elle est dure, mais d'une autre manière qu'elle était dure avant.
Ouais.
Donc, après, je parle vraiment pour pour ces communes, enfin ma communauté nord-africaine marocaine, il y a des réseaux qui se créent et ça fait plaisir. Et en vrai, il y en a tout, enfin il y en a toujours eu.
Oui.
Mais j'ai l'impression qu'on est plus, enfin on va être très facilement de sur dans la Discord sur des trucs nuls au lieu de prendre du recul et d'avancer ensemble. Et je suis critique, mais j'avoue que quand je vois les diasporas arméniennes, turques et machin, enfin j'en passe. Mais comment ils sont ensemble, je me dis qu'on a encore du chemin.
Il y a des traumas violents hein, de l'autre côté,
oui,
tu vois.
Ouais,
on n'a peut-être pas forcément tous connus.
Non, je suis totalement d'accord, tu vois. Mais il y a un truc, qu'est-ce qui nous en empêche justement, tu vois,
d'être autant solidaires.
Moi, je pense sincèrement.
Parce qu'il y a une souffrance, mais qui est autre. Mm-hmm. Mais pour moi, il y a encore beaucoup de boulot à ce niveau-là. Et je critique, mais je me critique moi la première.
Hein. Oui. Pour moi, c'est une question de confort et aussi de. Parce qu'on est à côté du pays. Moi, c'est vraiment que genre, plus t'es loin, mais c'est tout simple. Hein, j'ai une partie de ma famille qui est au Canada. Quand ils te disent, ça fait genre 3 mois, je n'ai pas parlé tunisien. Dès que je rencontre un arabe, je veux parler avec lui, même si ce n'est pas dans ma langue.
Ouais.
Je me dis, ah ouais, on ne fait pas du tout la même chose.
C'est pas la même expérience.
Il y a un aspect aussi qu'il faut évoquer. Elle a parlé de l'argent, c'est le prix des billets.
Ouais, c'est dingue.
Et pour certaines communautés, l'été, c'était, je l'ai fait passer mes vacances. Il y a une petite vidéo d'ailleurs qui a tourné sur les réseaux sur TikTok. Mm-hmm. C'est un influenceur là sur Snap. Il parle à un petit, il dit ouais, t'es parti en vacances. Ouais, je suis parti à Grigny.
Ouais.
Et toi, c'est un petit d'origine subsaharienne, je pense. Il peut venir du Mali ou je sais pas de quelle origine. Mais pour beaucoup, pour les parents, envoyer le petit au bled, c'était un investissement.
Ouais, ouais.
Et il y a beaucoup du coup qui ont pas pu se déplacer à Costa et ça rajoute une autre douleur en plus.
C'est ça, bien sûr. C'est ça.
Bah, typiquement, moi je sais que quand j'étais petite, je l'avais dit quand on parlait des voyages, je partais pas tous les ans au Maroc parce que ça coûtait trop cher de faire partir toute une famille. On partait en voiture. Ça coûtait trop, le périple il coûtait trop cher. Et quand on partait, on restait les 2 mois.
Et encore, là, tu vois, là, on parle vraiment de partir en tant que personne vivante.
Ouais.
Mais on n'a peut-être pas assez parlé du fait qu'il y a beaucoup de diasporas qui s'organisent justement pour, comment est-ce qu'on dit ça en français ?
Rapatrier.
Pour rapatrier justement les corps parce que j'avais vu les prix, je ne savais pas que
non, c'était dingue. Mais truc nul, moi, je sais que dans ma famille, genre, on a tous une assurance
de rapatriement.
De rapatriement. Elle est prise en charge dans l'assurance, c'est-à-dire demain tu meurs, c'est pris en charge, ton corps il est rapatrié dans ton pays. Mais tu vois, tout à l'heure aussi, je fais des autoroutes.
T'inquiète.
Tu parlais du fait de, d'arriver dans un pays sans vouloir, avec le projet de retourner, de retourner chez toi. Je sais que mon père, il est arrivé en France. Il savait que c'était pour travailler et que le jour où il prendrait sa retraite, il rentrerait chez lui.
Ouais.
C'est ce qu'il a fait. Il a taffé ici, il a fait son bif, il est rentré. Et il était tellement dans ce truc-là que mon père, il parle pas bien français, genre parce qu'il savait qu'il voulait pas rester ici. Il sait se faire comprendre, il sait comprendre machin tout ça. Mais
et son goal, c'est de repartir.
Il n'est pas venu ici par choix.
C'est le goal de beaucoup de papas.
C'est ça.
Il y en a beaucoup.
Et là, il est retraité. Dieu merci, il a sa maison, il a son jardin, ses animaux.
Il a sa vraie vie maintenant.
Il est bien, tu vois. Donc il y a ce truc aussi de. Depuis que je suis petite, je sais que mon père, son but c'était de retourner chez lui. Et je sais que c'est aussi une volonté de la plupart des gens qui m'entourent de peut-être pas de retourner tout de suite chez soi. Enfin, c'est chez nous ici aussi.
Oui.
Mais de partir en tout cas de la France.
Bah alors moi je me permets vite fait de rebondir sur ça parce que autour de moi il y a eu beaucoup justement de papas, tontons, etc. qui voulaient repartir. Et je sais qu'il y a quelques années j'ai eu la discussion avec mon père qui me disait. Mon pays, il a trop changé. Mon pays, il a trop évolué. Et aujourd'hui, moi, je suis ancrée à un historique de la Tunisie qui n'existe plus.
Il y a un vrai décalage.
Et il m'a dit, en fait, je ne pourrai plus jamais vivre en Tunisie comme j'ai vécu avant.
Oui.
Parce que le pays, il a évolué sans moi.
Ouais. Il y a un vrai décalage.
Et il y en a beaucoup. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais beaucoup de la trahison, justement, de l'immigration. Parce qu'on a envie de garder cette culture qui n'existe plus et qui n'est plus pratiquée.
Et qui est fantasmée aussi.
C'est ça.
Qui est fantasmée parce que c'était pas non plus le rêve. Enfin, c'était pas non plus. Tout n'était pas rose avant.
Exactement. Ouais. Mais forcément, on va.
Mais ça, je sais que je le vois, mais d'un point de vue extérieur. Parce que, typiquement, mon père, il est parti. Quand il est parti du Maroc, il est venu vivre sa vie ici. Mais il est resté avec une.
Il était connecté, en fait.
Il était connecté, en fait, là-bas. Après, bon, il s'est adapté, machin, tout ça. Mais je sais qu'il y a une partie de ma famille qui est venue ici, qui vit qu'avec des gens de notre communauté autour de chez eux et qui vit encore aujourd'hui comme le Maroc d'il y a 30-40 ans.
Ouais.
Tu vois, ils sont pas intégrés ici et ils sont plus intégrés au Maroc.
Ils sont complètement déracinés des deux côtés.
Ouais, ils sont complètement dans un espace-temps qui n'existe plus, en fait. Et pour moi,
ça doit être très difficile pour eux.
C'est terrible. En vrai, c'est vraiment
clairement,
terrible.
Clairement.
Pour toi, du coup, c'était mieux avant
ou pour moi, globalement, c'était mieux avant, mais même conclusion que tout le monde. Ouais. J'ai grand espoir et je suis sûre qu'on va faire mieux et qu'on va s'organiser.
Grave. Non, j'aime bien.
C'est nous. Hein.
Bah, clairement, ça va être à nous de faire les choses. Je pense qu'on va conclure avec... Je vais vous poser une dernière question.
Oui, elle est drôle, celle-là.
Elle est très drôle. Parce que vraiment, je ne m'y attendais pas du tout, il faut le dire. Pour vous, quelle est la diaspora qui envoie le plus d'argent? Et si vous pouvez à peu près estimer combien d'argent est envoyé.
Vous avez dit que c'était drôle.
Parce que moi, je ne m'attendais pas à ces chiffres, plutôt. Allez,
en vrai,
je vous
quand
écoute.
On prend du recul, c'est très drôle. Moi, ça m'a fait beaucoup rire.
C'est très raciste.
Non.
Non, je rigole. Non, vous allez comprendre, Votre avis. Diaspora qui pèse financièrement.
Ils ont un bat de thunes.
Ouais. Moi, je dirais indienne.
Non.
Ça aurait pu, hein.
Ça aurait pu.
Avec le nombre de personnes.
Ça aurait pu parce que. Alors, une chose est sûre, c'est qu'on vous l'a dit. Il a été dit ce pays.
Ce pays, il a déjà été cité ici.
Voilà, il n'y a pas de. Ah. C'est pas une question de piège. Vous pouvez deviner.
Bah, l'Algérie.
Non.
Chinoise.
Non. Chinoise.
Exactement.
Et pour vous, c'est à peu près combien qu'ils enverraient?
Énormément.
C'est-à-dire
énormément.
Hein, bah, le groupe.
Ouais, tout le groupe.
Ah, le groupe, il envoie des millions, wesh.
Non.
Un milliard.
Ouais.
Mais non. Oh,
51 milliards. Pour l'année dernière, 51 milliards.
Comment c'est des. Franchement, c'est pas organisé. Je parle pas en cliché, il n'y a rien de raciste, mais comment c'est des travailleurs.
Mais oui.
Et comment ils sont organisés, mon gars.
Ils sont pas d'organiser. Mais les gars, juste en Afrique. Regardez en Afrique le nombre de restos chinois qu'il y a, wesh. En Afrique, en France, dans tous les pays. Dans tous les pays, il y a un resto chinois, je pense.
Mais oui, par l'arabe. Tu vois, ils sont là, genre, ils sont organisés, ils font les choses.
C'est très, très.
Oui, parce qu'il y a les entreprises aussi. Les entreprises chinoises ailleurs qui donnent de l'argent.
Exactement.
Le chiffre,
exactement. Voilà. Et ils ont ce système aussi de tontine. Donc, c'était la petite dernière anecdote.
Incroyable.
Je pense que c'est très, très inspirant. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir et qu'il y a cette volonté, finalement, d'agir et de plus trop blablater. C'est cool de faire des constats.
Et comme dit quelqu'un, si quelqu'un l'a déjà fait, tu peux le faire.
Tu peux le faire. Donc,
comme dit quelqu'un, j'aime bien.
C'est marrant parce que du coup, comme dit quelqu'un,
qui a dit à quelqu'un,
un jour, quelqu'un,
un jour,
je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première de notre rentrée.
Oh là là,
2024-2025.
Quel plaisir, c'est une
heure 30. On est pile à l'heure, normalement. Ah, c'est bon. Ça nous a régalé. Encore merci au Centre Dîner de nous laisser faire nos 1h30 parce que sans eux, ça aurait été un petit peu short quand même, il faut dire.
On s'est régalé, je pense qu'on s'est laissé du temps.
Exactement. C'est plus agréable. On a pu s'écouter. Nous, je pense qu'on va vous retrouver pour une prochaine émission. Est-ce qu'on tease un petit peu?
Oh, franchement, grave pas. Grave pas, parce que les prochaines émissions vont être
incroyables. Elles vont être incroyables, en tout cas.
Vont être accompagnées d'une grosse communication sur les réseaux, donc juste restez branchés.
Et ça sera un nouveau format, il faut aussi le dire.
Restez branchés.
Donc restez branchés. Encore merci à Jérémy, Ad, Benoît de nous avoir accompagnés pour cette grande première.
Cheers.
Et on se retrouve pour de nouvelles émissions.
C'était mieux avant, on me le dit souvent, mes souvenirs sont doux. Je les chéris tant, mais l'avenir aussi est bien trop tentant. Faut que tout me réussisse. Get it.